Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews ce soir et sur Europe 1. Une panne géante de bracelets électroniques a eu lieu hier en Île-de-France. 5 heures de panne pour ces bracelets qui permettent de localiser les délinquants, les conjoints violents ou les radicalisés. Pendant tout ce temps, les policiers n'ont pas pu suivre les personnes incriminées. L'alerte a été rapidement donnée au parquet national antiterroriste et à la direction interrégionale pénitentiaire. Le directeur de la société Thales, qui fabrique le logiciel, a été convoqué pour expliquer cette défaillance. Une nouvelle attaque contre des policiers à Lyon vire au bras de fer politique entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Ce sont des hommes de la BAC qui ont été visés par plusieurs rafales de tirs alors qu'ils étaient en train de surveiller un point de trafic de drogue dans le quartier sensible de la Duchère. Pas de blessés, heureusement, du côté des forces de l'ordre. Le raid a été déployé pour sécuriser la zone. Des renforts vont arriver dans les prochains jours. Le tireur est toujours recherché. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur a donc rappelé au maire de Lyon l'importance de la vidéosurveillance. L'élu écologiste lui a rétorqué qu'il avait déjà déployé de nombreuses caméras dans cette zone. On les entendra tous les deux. La Hongrie, passage obligé des candidats de droite à la présidentielle après Éric Zemmour. C'est Marine Le Pen qui a été reçue cet après-midi par le souverainiste Viktor Orban avec le tapis rouge déroulé. Immigration, poids de l'Union européenne était au menu des discussions. On entendra la candidate du Rassemblement national. De son côté, Éric Zemmour s'apprête à lancer son parti. Une réunion hier s'est tenue avec ses supporters dans le QG de campagne du futur candidat. Le polémiste est ce soir en déplacement à Biarritz, où il tient une nouvelle réunion publique sur fond de promotion de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Plusieurs dizaines de manifestants, environ 200, s'en sont pris à cette venue. Il traite ceux qui viennent écouter Éric Zemmour d'homophobes et de fascistes. Voilà pour ce déplacement d'Éric Zemmour à Biarritz. On y reviendra dans un instant. Le procès du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll a démarré à Paris. La vieille dame avait été retrouvée en 2018 lardée de coups de couteau et en partie carbonisée à son domicile. Deux hommes sont dans le box des accusés qui se renvoient la responsabilité de cet assassinat. On entendra la douleur de la famille de Madame Knoll. Voilà, on débat de tous ces sujets d'actualité avec mes invités ce soir. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Consultant CNews. Nous sommes avec Christian Poteau. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien préfet et fondateur du GIGN. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvy. Bonsoir.
Bonsoir.
Policier, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Et Céline Pina, fondatrice de Vivre la
Bonsoir.
République. Bonsoir Céline. On va tout de suite commencer avec ce bras de fer entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. En cause, l'absence de caméras de vidéosurveillance dans une zone du quartier de la Duchère où trois policiers de la BAC ont essuyé des tirs hier alors qu'ils surveillaient un point de deal. Écoutez l'échange vif et à distance entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet.
D'abord, c'est une réaction contre le travail très dur que font les policiers partout, mais notamment à Lyon, dans ce point de deal bien connu. Je veux aussi déplorer, et j'ai écrit ce matin à monsieur le maire de Lyon, que dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y ait pas de caméra de vidéoprotection. Et là, il n'y avait aucune caméra de vidéoprotection qui aidait d'abord les policiers à lutter contre le trafic de drogue, à couvrir le travail de ces policiers, et puis aujourd'hui à retrouver les auteurs. Nous appelons les maires de France, et singulièrement monsieur le maire de Lyon, de sortir de l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection.
Il n'y a pas d'idéologie, moi je suis extrêmement pragmatique. Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installées. Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, il m'avait fait remarquer que, justement, sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, là où les faits se sont produits, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Voilà, on va débattre de ce sujet dans un instant dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. On revient sur ce qui s'est passé donc hier à Lyon dans le quartier de la Duchère. Trois policiers de la BAC ont essuyé des tirs lors d'une opération de surveillance d'un point de deal. On fait le point avec ces explications d'Alexis Vallet et Karine Bouteloup.
Le quartier de la Duchère s'est réveillé dans le calme, mais les forces de l'ordre étaient toujours sur place, en nombre, pour sécuriser les lieux. Hier soir, trois policiers de la brigade anticriminalité ont été pris pour cible par des tirs alors qu'ils patrouillaient près d'un point de deal. Des renforts ont dû être appelés, dont le raid, et le quartier bouclé. Pascal Mayos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dit ne rien vouloir lâcher sur l'enquête.
Le parquet a ouvert une instruction pour mise en danger et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'opération qui est menée ici, à la demande du ministre de l'Intérieur, qui m'a accordé des renforts, c'est d'assurer des opérations de sécurisation et montrer que nous ne lâchons rien et que nous occupons le terrain et nous continuons. La République est partout chez elle et nous ne lâchons pas un bout de terrain.
Ces démantèlements de points de deal sont réalisés à la demande du ministère de l'Intérieur. Pour Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, c'est un quotidien qui devient difficile à gérer.
Ces quartiers sont souvent en proie à ces voyous qui, mécontents des actions des services de police, qui ne peuvent pas dealer, et ben s'en prennent soit aux résidents, soit à leurs véhicules, soit directement aux policiers. Aujourd'hui, c'est très grave. On a voulu tuer un policier par ce tireur embusqué qui a fait feu en direction de notre collègue.
Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Des recherches sont en cours pour retrouver le ou les tireurs.
Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier. Là, on a tiré pour tuer les policiers, pas pour leur faire peur, hein, pas pour leur dire de partir. C'était vraiment une tentative d'homicide ?
Oui, on est passé à côté d'un drame terrible. Heureusement que mes collègues ont bien réagi, sont protégés. Puis quelque part, des fois, il y a un petit bon Dieu qui est là pour éviter les balles. On a tiré la Kalachnikov et pas rafale.
Kalachnikov, donc vous confirmez que c'est rafale.
Oui, c'est vraiment une arme de guerre, c'est du lourd et c'est pas rafale. Donc quand on tire en rafale, c'est pas un coup en l'air juste pour faire peur, c'était vraiment, il y a des impacts. Les collègues ont riposté d'ailleurs, a priori, c'est les informations qu'on a du terrain. Mais c'est vrai que ça fait quelque temps que les services de BAC, de PJ secouent un petit peu, j'allais dire, certaines, surtout la bande du quartier, et essaient vraiment de contrer un petit peu cette principauté. Moi, j'appelle ça des principautés du shit. C'est-à-dire qu'il y a des voyous qui ont décidé de se créer une zone de franche où c'est eux les caïds, les rois de la cité, et c'est à eux de faire leur zone de deal, et les policiers ne sont pas bienvenus. Et quand on vient, on est un peu, entre guillemets, les envahisseurs et la bande d'en face.
D'accord, donc cela, ça veut dire qu'on a tiré à la Kalachnikov sur les policiers. Il va y avoir une escalade, c'est le raid qui est intervenu pour ramener le calme, donc ça dit le niveau de violence auquel on est arrivé. Les renforts vont rester pendant combien de temps pour sécuriser la zone ?
Déjà, il y a une enquête de police qui est en cours, donc effectivement, on espère retrouver le ou les individus qui ont tiré sur nos collègues. Les renforts vont rester le temps nécessaire de l'intervention. Après, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. Je pense que ça va être quand même assez rapide. Voilà, je fais confiance à mes collègues de PJ qui vont vite essayer de trouver la personne et on va intervenir rapidement.
Vous parlez d'une bande, c'est-à-dire que vous connaissez quasiment les identités de ceux à qui vous avez affaire ou pas ?
Bah, mes collègues les connaissent forcément. Ils reviennent en boucle. Hein. On sait très bien que dans certains quartiers, il y a des bandes organisées. C'est plus les petits loulous du coin comme avant, les petits délinquants. Maintenant, c'est du lourd. Ils sont équipés, ils ont des armes de guerre. Vous savez, depuis 2005, il y a eu l'insurrection des banlieues. Hein, et depuis, ces bandes-là ont progressé entre guillemets, se sont armés. Et on avait vécu, nous, 2005, d'ailleurs, à l'époque, la République avait tremblé. Et la police et la gendarmerie avaient quand même sauvé encore une fois la République, parce que c'était le début. Nous, ça nous avait alertés. Et on s'est dit, mais un jour ou l'autre, on va y passer. Il y aura une internationale des banlieues. Et je pense qu'on va peut-être pas tarder à la voir un jour, hélas.
Le fait que les trafiquants de drogue soient surarmés, c'est aussi un signe de leur... Évidemment, radicalisation dans la violence.
Ils sont déterminés. Le trafic de drogue, c'est à peu près 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue en France. L'autre jour, je disais sur une autre chaîne, c'est la plus grosse PME, j'allais dire bientôt le CAC 40. C'est la plus grosse entreprise de France. Plus de 3 milliards d'euros de bénéfices. Imaginez ce que vous pouvez acheter avec ça. Voilà, donc oui, c'est des grosses bandes organisées. Et maintenant, ils recrutent de plus en plus jeunes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est comme une entreprise. Voilà, il y a du marketing, il y a du développement commercial,
de l'affichage,
du chouf, du renseignement, du Uber. Enfin, c'est des entreprises à part entière, comme on peut trouver dans une PME normale.
Christian Proto, est-ce que cette escalade vous fait peur, vous qui êtes encore une fois spécialisé dans ces questions ?
Elle me fait peur parce que bien évidemment, on le sait tous, dans ces métiers, il n'y a pas de balles perdues. Hein. Là, c'est effectivement une chance énorme. Que les tirs n'aient pas touché quelqu'un.
Surtout de la
Mais en même temps, ça montre la fébrilité de ces bandes qui sentent qu'ils sont en train de perdre pied sur le terrain, avec deux problèmes que nous avons, qui est il a fallu se mettre au niveau parce qu'on avait du retard au niveau des effectifs, même si les équipes qui étaient en place, les équipes de terrain connaissaient, mais il manquait d'effectifs. Petit à petit, les mesures qui sont mises en place commencent à faire de l'effet. On ébranle le système. Et je dis qu'il y a de la fébrilité parce que normalement, ils réservent les armes entre eux.
Oui, pour leur règlement de compte.
Pour leur règlement de compte, parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent. on va encore dire des choses qui ne vont pas faire plaisir, mais dans le fond, pas grand-chose quand ils se font prendre à dealer, mais par contre, quand le trafic tombe, ils perdent toutes leurs ressources. Donc, ils défendent leur précaré. Et c'est pour ça que la phase suivante à laquelle il faudra passer, c'est encore muscler les effectifs, mais qui restent sur place.
Oui. C'est le problème. Est-ce qu'il y a assez d'effectifs, c'est ça la question, pour stationner en permanence dans ces zones.
Absolument, Laurent, sauf que ces effectifs, on ne les fait pas en un jour. Ce personnel qui est là, ce n'est pas du bleu ou du kaki ou du vert ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des gendarmes en tenue ou des policiers en tenue. C'est des policiers qui connaissent bien la PJ, qui sont aguerris. Et ça ne se fait pas simplement en disant « on va en mettre plus ». Il faut les former et il faut du temps.
Céline Pina, sur cette situation à la Duchère.
C'est extrêmement inquiétant quand vous avez des armes de guerre qui sont sorties. Le problème aussi, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un discours politique qui légitime les atteintes à la police, qui fait de la police, qui explique qu'on subit des violences policières, que la police est en fait une milice au service d'un État qui n'est pas légitime, au service d'une fausse démocratie. On a tout un discours autour de la victimisation de certaines populations. Et ces gens sont en lien aussi avec les trafiquants. Donc d'un côté, vous avez un trafic, mais qui peut aussi justifier sa violence en faisant également une violence politique, une forme de violence révolutionnaire. L'union des deux discours dans le même endroit et sur les mêmes espaces, ça crée aussi des phénomènes où finalement le surmoi tombe. Il n'y a plus grand-chose, n'empêche, avant, on ne tirait pas sur un policier. Parce que malgré tout, il incarnait l'autorité. Et puis parce que les ennuis allaient être très très forts. Aujourd'hui, on voit que tout cela est tombé et qu'au contraire, se faire la police, c'est presque aussi une manière d'affirmer sa virilité. Ça ne peut pas continuer. Comme ça, à un moment ou un autre, il y aura des gens qui seront touchés à la Kalachnikov, il y aura finalement un drame. Donc la question, c'est comment reprendre le contrôle. Et ça doit commencer par une prise de conscience des politiques. Je rappellerai juste qu'on a un candidat à la présidence de la République qui s'appelle Anas Kazib, par exemple, qui se réclame de l'extrême gauche, qui tient un discours anti-police, anti-État extrêmement violent et qui, aujourd'hui, n'est combattu par personne idéologiquement. Qu'on a, y compris chez EELV, puisqu'on va voir le souci à Lyon, gens qui tiennent un discours anti-police qui est scandaleux. Donc il va falloir peut-être aussi que nos représentants se reprennent et arrêtent d'alimenter un discours extrêmement dangereux.
Donc Claude Dessier là-dessus, et puis sur la bisbille entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, qui dit « moi j'ai mis des caméras, mais il n'y en a pas assez ».
Ça paraît évidemment totalement anormal. Pour lutter contre une menace qui est en train de se durcir et d'évoluer, il est clair qu'il faudrait qu'il y ait entente. Hein, lutte commune entre le ministre et le maire de Lyon, en l'occurrence. Simplement, on sait tous, alors il a peut-être changé d'avis, ou va peut-être changer d'avis, que le maire de Lyon est contre ces caméras de surveillance.
Non, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est pas ce qu'il a dit dans le document qu'on a diffusé il y a quelques temps, il y a quelques minutes. Jusqu'à présent, philosophiquement, il a toujours été contre. S'il change d'avis, j'applaudis, tant mieux, bravo. Mais il n'y avait pas de caméra là où le point de deal a donné lieu à cet échange de coups de feu. Il n'y avait pas de caméra. Il les a annoncé qu'on allait les prendre ailleurs pour les mettre là. C'est un peu du bricolage. Si monsieur le maire de Lyon change de philosophie, c'est pas moi que ça gênera. Il y a en face maintenant des gens qui n'hésitent plus. Les ripostes sont sans limite vis-à-vis des forces de l'ordre.
C'est pas gradué, oui.
Et la question que... Bon, c'est relativement nouveau quand même. Et la question que je pose en reprenant ce que disait mon ami Proutot, c'est est-ce qu'il y a ce qu'il faut en face ? La réponse est probablement non. Il faudrait qu'il y ait des forces, des moyens sur les points de deal qui peuvent bouger, mais en permanence, pendant un certain temps. Qui peut faire ça ?
Alors, Monsieur Couvi,
j'ai une petite idée, mais je n'en dis rien.
Moi, je dirais qu'il y a la réponse policière, effectivement. Donc, il faut qu'on soit proactif. Ça, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. On a commencé, là. Je pense que le gouvernement a pris conscience depuis quelques mois qu'effectivement, il fallait être un peu actif dans la lutte contre les stupéfiants. Moi, je m'en rappelle, je suis pas mélomane, mais je me rappelle Gainsbourg en 86-87, aux Enfants de la Chance. Les dealers, il faut leur casser la gueule, shit, shoot, etc. Mais en fait, je pense que c'est une métaphore, mais c'est vrai qu'il faut mettre le paquet dessus. C'est la sécurité pour nos enfants, c'est la santé publique.
le shit, ça rend bêta, je suis désolé de le dire, quand on voit les gens qui...
Les dégâts
que ça fait, c'est terrible. Quand on voit des films, effectivement, où on fume du shit, etc. Bon. Donc là, j'attends aussi que les pouvoirs publics, mais pas que, c'est-à-dire les chanteurs engagés, les footballeurs engagés, etc., luttent contre cette violence et contre cette drogue en disant que c'est pas bien. Il faut vraiment un effort.
Vous voyez que ça va dissuader les dealers là, qui vous tirent dessus à la calèche ?
C'est pas les dealers, c'est plutôt les usagers. C'est-à-dire qu'eux, par contre, sont aussi... les dealers, ça va pas...
J'ai peur que ça ait très peu d'impact. Hein,
mais j'aimerais bien que ça en ait.
L'appel aux chanteurs et aux personnes connues.
C'est ça.
Les dealers, non. On va...
Sur les caméras de vidéosurveillance, il en faut plus, il en faut partout pour vous. Il faut des drones.
Il en faut partout. Alors, nous, ça nous aide beaucoup dans la police, forcément, parce que c'est déjà, c'est préventif. C'est prouvé qu'effectivement, c'est une lutte contre les vols, les cambriolages, les agressions. Après, effectivement, c'est entre guillemets un deal entre la population et les services de l'État en disant bah, nous, on accepte d'être filmés, que notre vie de tous les jours soit intrusive, enfin, les caméras soient intrusives, mais OK, on le fait parce qu'on a besoin de.
Mais ils y vont la disqueuse aussi, hein, Oyonnax, c'était la disqueuse qu'ils ont fait tomber.
Oyonnax, 22 000 habitants, c'est une petite ville de province. Franchement, moi, je ne pensais pas voir un jour ça à Oyonnax, à part les matchs de rugby, mais ça, jamais.
D'Oyonnax, on les a toutes en tête.
Ah non, mais c'est fou.
Je répète, mettez des drones. C'est pratique et c'est très efficace. Vous verrez qu'on y viendra. Avant un an, il y aura des drones.
Christian Proto.
Non, mais je suis d'accord. Écoute, sauf que tes drones, ils ne volent pas H24.
Ouais. Il suffit qu'il y ait quelqu'un derrière.
Voilà,
ça ne vole pas tout seul.
C'est justement là où je voulais.
Alors, Christian Proto. Ouais.
Non, les caméras, il faut dire que, contrairement à ce qu'on a pu dire à une époque, et j'étais pas convaincu moi au début, mais la fiabilité, l'efficacité des caméras, qui sont maintenant des caméras qui sont presque nocturnes, qui permettent de voir également, on revient sur H24, sont d'une grande efficacité et surtout d'une bonne définition. Et on pourra rajouter des reconnaissances faciales.
D'accord.
Ça va être intéressant. Ça va poser encore un problème avec les empêcheurs de tourner en rond sur la protection individuelle, mais ça, il faudra en arriver là.
Un mot là-dessus, monsieur Koubi,
en fait, on a le souci d'apporter la preuve dans le procès judiciaire. Et donc les caméras peuvent nous aider à apporter cette preuve. On le voit bien, donc notamment sur des reconnaissances faciales, ou alors même en faisant le modus operandi du délinquant, on remonte le temps comme un puzzle et on sait d'où il est parti, où il va, ce qu'il a fait, etc. Et ça apporte des preuves justement à la justice. Et ça, on en a besoin aussi.
D'accord. Dernier mot, Christian ?
Oui, juste un élément technique, juste pour déstabiliser. On imagine toujours reconnaissance faciale par le visage, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans les attitudes et tout, les logiciels maintenant permettent de dire incontestablement
si c'est
ce monsieur qui marche.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera des rodéos sauvages, comment stopper les rodéos sauvages. On en a eu un exemple à Arras où là, il y a carrément une jeune voiture qui a été renversée, retournée par les jeunes qui faisaient un rodéo. Et puis on parlera aussi de cette panne fort inquiétante des bracelets électroniques hier en Île-de-France. C'est près de 7500 personnes qui ont été concernées par cette panne, évidemment des délinquants. Tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Christian Proto, avec un policier, Jean-Christophe Couvi et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On a évoqué la question des trafics de stupéfiants, de la difficulté des policiers à stopper les dealers. Là, on a un autre problème, une autre nuisance, les rodéos sauvages. On a eu des séquences dimanche après-midi avec une cinquantaine de jeunes qui faisaient un rodéo à moto qui ont fini par retourner littéralement une petite voiture dans laquelle se trouvait un adolescent de 16 ans. Comment stopper ces rodéos urbains ? On fait un point avec ce sujet d'Anthony Favalli et Karine Boutelou et je vous pose la question dans un instant.
Sur ces images, des dizaines de jeunes qui participent à un rodéo sauvage prennent pour cible une voiture sans permis et la retournent. Selon la Voix du Nord, un jeune homme de 16 ans se trouverait à son bord. Il se serait retrouvé là par hasard. Secouru par les pompiers, il serait sous le choc mais ne souffrirait d'aucune blessure. Au total, ce dimanche, ils étaient environ une centaine à participer à ce rodéo près d'Arras. Selon Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière, les forces de l'ordre seraient impuissantes face à ce phénomène.
Aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de prendre en chasse quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses, puisque potentiellement, il y a un risque évident d'accident.
Depuis 2018, participer à un rodéo motorisé est passible d'une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Une réponse pénale inefficace, selon Grégory Joron.
Malheureusement, dans le même temps, on détricote la loi avec le dispositif de la loi Belloubet qui interdit les peines de prison pour les peines de moins d'un an. Donc vous imaginez cette incohérence, on va dire, pénale.
Ce dimanche, à l'arrivée des gendarmes, les motards ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l'agression.
Monsieur Couvouille, vous êtes policier du syndicat Unité SGP. On a l'impression qu'à chaque fois, on passe un cran. Les policiers, ils surveillent le trafic, on leur tire dessus à la Kalachnikov. Les rodéos sauvages, ah ben, on va renverser une voiture juste pour le plaisir de la renverser. On rappelle aussi que ça fait des morts. Une dame de 70 ans a été tuée il y a quelques jours par un rodéo urbain. Comment, vous êtes impuissants, vraiment, les policiers. Vous ne pouvez pas intervenir.
C'est compliqué d'intervenir sur les rodéos, dans le sens où quand on fait un flagrant délit, on est obligé de faire attention à la personne, comme disait mon collègue. Quand on dit une chasse, alors on prend en compte un véhicule. Donc là, si on le fait tomber, imaginez, la personne décède ou ça va retomber sur les policiers. Non, on doit rendre des comptes aussi à la justice, à nos citoyens. Alors après, lutter contre les rodéos, il y a le temps de l'enquête, comme je disais, c'est-à-dire qu'on mène une enquête en profondeur, on identifie les personnes, on va les taper le petit matin à 6 heures et on essaie justement de remonter tout ça. On avait les GIR, hein, c'était les groupements interministériels de recherche sur les avoirs criminels, les saisies. Là, c'est laissé tomber en déshérence. Alors, on avait la douane, on avait les impôts, la gendarmerie, la police qui travaillaient de concert. Ça, il faudrait le réactiver pour peut-être cibler un peu. Et surtout, c'est que les motos, quand on les prend, on en fait des trombones et on convoque la personne qui avait la moto. Ben, on la compacte, la détruit et on lui dit voilà ce qu'on a fait de ta moto. Parce que franchement, il faut montrer des exemples. Et là, j'attends aussi que la réponse pénale, comme disait mon collègue.
Mais ça, on ne le fait pas actuellement, rassurez-moi.
On ne le fait pas, parce qu'en fait, il n'y a que le propriétaire de la moto qui risque quelque chose. Sauf que les motos, elles ne sont pas immatriculées, elles sont volées. Ou alors, on les achète aussi avec l'argent de la drogue. Parce que quand je vois 50 personnes qui ont des motos comme ça, quel argent ils ont pour acheter ça? Ils ne travaillent pas forcément. Donc, c'est forcément l'argent de la drogue. Et encore une fois, tout est imbriqué. Donc, quand j'attends aussi de la justice, qu'elle donne une réponse pénale claire, et quand elle rend la justice au nom du peuple français, est-ce que réellement on demande au peuple français ce qu'il attend? Je pense que le peuple français, il attend vraiment qu'on condamne ces gens-là.
C'est une sévérité.
Et que la justice prononce, pas au nom d'une idéologie, de temps en temps, mais vraiment au nom du peuple français.
Christian Proto, sur ces rodéos urbains sauvages.
Il y a bien sûr derrière tout ça de l'argent facile qu'il peut y avoir à travers la drogue et tout, mais il n'y a pas que ça. C'est un phénomène de société, d'une certaine société, de motards. Et c'est un vrai...
Les motards, ils ont une autre éthique,
non,
quand même.
Mais je dis motards à deux roues, en trale et tout.
Les délinquants, bien sûr.
Et ils font une espèce de compétition entre eux, sur TikTok, comment se rassemblent, d'après vous,
à une centaine,
de types comme
ça. Ils ont tapé sur un maire dans le Calvados, ce week-end, qui a pris des coups de matraque.
Ils étaient une cinquantaine.
Donc,
c'est tout un réseau, tout un réseau de jeunes. Alors... C'est une orientation nouvelle au niveau police, où il faut, sur ce type de bande spécifique, se former, mettre en place des moyens de surveillance, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, puisqu'ils se rassemblent comme ça. Ils se connaissent entre eux, et ils se rassemblent comme ça.
C'est comme une volée de moineaux, c'est-à-dire qu'ils se réunissent en un clin d'œil, ils se s'éparpillent
Ils voient un gyrophare où ils entendent un deux-ton, ils sont déjà partis. Il y a une chose qui existe... progressivement, comme ça s'était passé, là on revient au motard, après l'accident de cette jeune fille qui avait construit à la réalisation du circuit Carole, où les motards faisaient de la compétition un peu sauvage, un peu partout, et une jeune fille était décédée, et le circuit au nord de Paris qui a été fait porte son nom. C'est qu'il y a des associations qui se forment, de jeunes qui aiment ça, mais qui sont pas des voyous, et qui veulent encadrer ça mieux et qui aimeraient que...
Mais là, c'est le goût de l'interdit. Quand ils vont sur la place Bellecour à Lyon, c'est pas pour faire de la moto.
Ils ne sont pas provoquer. À 50 sur la place Bellecour. Là, c'est des gros rassemblements.
Oui,
et 50, on va en avoir. Beaucoup. Et ce que je crains, c'est qu'on ait de plus en plus...
Il y aura une compétition, une émulation.
C'est une espèce d'émulation. Ou sur Internet, regardez ce qu'on a fait.
Monsieur Couvi, et après Céline.
Chaque année, on fait la compète sur les voitures brûlées. Moi, mon quartier a brûlé plus de voitures que le tien, etc. Ben là, c'est la même chose. On va faire de la compétition. Moi, je suis capable d'organiser. On a vu les Dalton. C'est un groupe de rack pour se faire de la publicité.
Déguisé en Dalton. Alors, j'ai pas vu Laurent Templan. Hein,
peut-être qu'il avait. Mais voilà, ils l'ont dans la tête en Templan, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est franchement, c'était dramatique. Et heureusement, on a monté Là, on a été proactif sur le coup. C'est-à-dire qu'on a monté un dispositif.
et on les a interpellés en douceur, mais on les a interpellés
avant,
quand même.
Avant qu'ils passent, qu'ils
repassent, ils sont passés à l'acte, mais on les a, enfin voilà, on les a suivis, on avait monté avec les FMU, enfin c'est les motards de la police et des CRS qui sont venus aussi faire le lien, et on a réussi à en interpeller quelques-uns. On va voir maintenant ce que ça va donner au niveau justice.
Céline Pina, un mot sur ces rodéos.
Ce qui était très intéressant, c'est ce que vous disiez. Effectivement, quand on tape au portefeuille, on obtient des résultats. Donc si on arrête avec qui est propriétaire, mais à partir du moment où il y a un usage mauvais qui est fait d'un objet, l'objet est pris, il est confisqué, il est détruit. Fin de l'histoire, et on se sortira de beaucoup de choses. Donc il faut aller vers le réel, regarder ce qui empêche d'être efficace dans la sanction, mais aussi rappeler que ces histoires de rodéo, ça fait des années que ça dure. Moi, je me rappelle très bien d'un rodéo qui s'est très mal terminé, c'était à Villiers-le-Bel, ça a donné les fameuses émeutes de Villiers-le-Bel en 2007. Et pendant ces émeutes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez toute une compagnie de policiers qui s'est fait tirer dessus à balles réelles. Mmh. C'était 90 fonctionnaires qui ont été pris à partie de cette manière. Et on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, on voulait quand même étouffer un peu toute cette partie de l'histoire. Et je rappelle aussi qu'on était encore dans un discours avec « Oh là là, ces pauvres personnes dans les banlieues qui sont victimes de tellement de choses qu'elles ne peuvent que se révolter. » Alors que là, on avait quand même des voyous patentés qui s'en prenaient aux forces de l'ordre et qui ne représentaient pas tous les habitants de ces quartiers. Donc, ces histoires-là datent d'il y a longtemps. On peut
quand
même s'interroger.
Donc, on n'a toujours pas trouvé un système, une stratégie
d'autorité. On ne le met pas vraiment en place. C'est-à-dire, si vous créez cette forme de renseignement, mais qu'ensuite, la réponse pénale ne suit pas, que si vous détruisez la moto, vous vous retrouvez attaqué parce qu'on vous explique que vous n'auriez pas dû le faire et ainsi de suite, on ne va pas s'en sortir. Il faut que la réponse pénale soit aussi adaptée au réel.
Alors, Jean-Claude Dacier, allez-y,
rapidement.
Vous
ne pouvez pas détruire une moto sans une ordonnance d'un juge si vous avez identifié le propriétaire.
Je crois
qu'il
faut, il faut voir ce qui est fait en Italie pour la lutte contre la mafia et pour la lutte contre un certain nombre de choses.
En Italie, oui.
Ils ont levé certaines barrières. Et ça marche.
En réalité, il faut qu'on se dise les choses. Les pouvoirs publics, à l'heure qu'il est, s'ils voulaient intervenir et empêcher les rodéos qui dérangent les Français, ils le feraient. En réalité, ils ne veulent pas le faire. Les policiers sont interdits.
Le risque d'émeute est réel. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, Charlie. Les policiers sont interdits de poursuivre dans des conditions qui peuvent être dangereuses les motards en question. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, à quelques mois de la présidentielle, pas de vagues, on ne va pas prendre le risque de mettre le feu aux banlieues pour interdire quelques rodéos, aussi dérangeants soient-ils. C'est la vérité politique. À la limite, je le comprends, mais il faut arrêter de nous raconter des histoires. En Angleterre, je vais le dire pour la énième fois, il y a une loi qui protège les policiers juridiquement parlant, alors qu'en France, ils terminent devant l'IGPN s'ils font une bêtise au moment de l'intervention. En Angleterre, ils ont mandat de faire ce qu'il faut faire pour arrêter les motards qui se livrent à ce genre de rodéo. Et ils sont juridiquement protégés. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas.
Christian Proutot, un dernier mot là-dessus, après on passe au
bracelet
électronique. J'aime bien
quand il est comme ça, mais même en Angleterre, ils ont problème parce que les fonctionnaires eux-mêmes hésitent simplement par rapport au fait, même s'ils ont l'autorisation. Envoyer un jeune dans le décor, ça se fait pas volontairement comme ça, simplement parce qu'il y a du bruit et un trouble à l'ordre public. Donc il y a en toute chose une mesure, ils ont la possibilité de le faire, mais c'est plus à contrario. C'est de se dire que s'il y a eu un choc qui n'était pas prévu, ils ne seront pas poursuivis. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut interpréter le texte.
Demain, je te ferai un petit bilan comparatif. Je vais me renseigner sur ce qui se passe en Angleterre. On en parlera tous les jours.
Le problème, c'est que la situation est instrumentalisée. Quand vous voyez ce qui s'est passé en mars à Lyon, c'est un gamin de 13 ans qui perd la vie, probablement en faisant l'idiot avec sa moto. On n'est pas du tout sûr qu'il était poursuivi par des policiers. Simplement, la rumeur, ça a été de dire que s'il roulait aussi vite, c'est parce qu'il avait croisé une voiture de police. Ça a donné des jours et des jours d'émeutes. Donc la réalité de ce que craignent...
L'émeute, c'est un peu au-dessus. C'était
de la violence urbaine, mais je pense que pour les gens qui étaient là, c'était
pareil,
très dur. Et on peut comprendre qu'un maire n'ait pas envie de ça. Et ensuite, pour les policiers, les trois quarts du temps, quand ça tourne à la violence urbaine, les maires, en règle générale, se désolidarisent complètement, y compris quand ils ont insisté pour qu'il y ait intervention. Donc tout ça n'est pas très clair ni très cohérent.
Un dernier mot, M. Couvi, puis après on passe au bracelet.
La police, on a le souci de l'être humain. Et on a souci tout le temps, même je le voyais, M. Proutot est là, que ce soit l'IGN, soit le RAID, etc. Systématiquement, on essaie de sauver les individus. La police ne tue pas, la police sauve. Donc nous, notre premier... Mais ça, je le répète, parce que dans la tête des gens,
oui,
il faut le dire,
répéter.
Notre premier souci, c'est la valeur humaine. On n'est pas là pour tuer des gens, on est là pour les sauver et même les protéger d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est gênant d'aller taper des motos.
On va revenir sur un autre fait dont je parlais il y a quelques instants, la panne de bracelets électroniques. Alors ça, c'est un phénomène assez inquiétant, puisque ça a concerné près de 7500 personnes en région parisienne, des délinquants, conjoints violents, radicalisés, qui portaient un bracelet électronique. Le système informatique est tombé en panne, et ils n'ont pas pu être géolocalisés, en tout cas localisés pendant plus de 6 heures. On fait le point avec ce sujet de Régine Delfour, puis je vous passe la parole là-dessus.
Des bracelets électroniques hors service pendant 6 heures. Une panne a en effet affecté hier leur fonctionnement en région parisienne. Pour Johan Carrard, ce syndicaliste FO Justice, le pire a pu être évité.
Heureusement, les personnes détenteurs de ce bracelet ne se sont pas rendues compte de cette panne. Pourquoi ? Parce que quand il y a des coupures de communication, l'appareil ne le signale pas. Et effectivement, ça a permis, et je le pense, d'éviter le surincident.
Cette panne a également concerné les femmes équipées d'un bracelet anti-rapprochement pour les protéger d'un ex-compagnon violent. Pour Sandrine Boucher, présidente d'une association de familles de féminicides, cet incident est inacceptable.
On est très en colère parce qu'on a déjà du mal à protéger les femmes victimes de violences. Si là, en plus, il y a des défaillances sur les bracelets et qu'elles n'en sont pas informées pour à minima se mettre à l'abri, c'est quand même compliqué.
15 000 personnes sont équipées d'un bracelet électronique sur le territoire national et 1000 autres d'un bracelet anti-rapprochement.
Monsieur Couvi, vous êtes policier. Sincèrement, ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques, cette panne.
Bien sûr, oui. Mais bracelet électronique et bracelet anti-rapprochement, c'est deux choses différentes.
On est d'accord.
Bracelet électronique, c'est pas du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, la pénitentiaire surveille. Il y a des horaires de sortie, etc. Et on regarde si la personne n'a pas dépassé, pas le périmètre, mais l'horaire, s'il était bien là, il a bien pointé. Anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement, là, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que là, effectivement, ça bip, entre guillemets. Et la personne qui a le bracelet, qui se rapproche de la victime, est informée, elle a le téléphone et elle peut justement appeler les secours, etc. Donc là, oui, là, il y a un gros problème.
6 heures d'affilée, Christian Poteau, ça fait beaucoup pour une panne.
Oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une société de technologie avancée, mais c'est fragile parce qu'on est à la merci de la technologie et qu'il n'y a pas de technologie à 100%, il faut le dire. Alors bien sûr, on peut doubler les logiciels, faire en sorte qu'il y ait des choses redondantes, pour pouvoir avertir d'une panne. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez la panne sur le serveur central, cette panne fait que c'est tout le système qui est
Mais peut-être mettre en place un système, si le bracelet tombe en panne, qu'au moins la femme soit prévenue, quoi.
Que le bracelet est en panne. C'est tout bête, quand vous avez un problème, pour l'anti-rapprochement, un SMS, même la SNCF le fait, quand il y a un train en retard, etc., on peut très bien recevoir un texto en disant attention, système défaillant, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires, et la personne qui est visée peut justement aller chez des amis ou se réfugier même dans un commissariat, etc. Nous, c'est commissariat. Ah, c'est ouvert.
C'est à l'aise à être invité à faire mieux, sans doute, et éviter surtout que ça se renouvelle. Maintenant, je me rassure en espérant que les intéressés, ceux qui portaient le bracelet,
ne se sont pas rendus compte.
Heureusement,
il n'y a pas une lumière rouge qui bip.
Hors surveillance. J'espère, mais néanmoins, c'est une alerte très sérieuse. C'est un pépin de la part de Thalès, qui est pourtant une société haut de gamme. Donc, non seulement ils vont essayer d'éviter que ça recommence, mais je pense que, comme vous le dites, ils vont essayer de trouver un système qui. Si la panne, dans quelque temps, revient, il y a une protection pour les victimes potentielles.
Céline Pina.
Et surtout, ça parle de failles dans le système, et ces failles, elles sont de plus en plus nombreuses. On a déjà vu comment on pouvait hacker facilement un certain nombre de données, y compris au plus haut niveau de l'État, y compris au sein des banques.
On écoute même le président. Alors.
On a même eu un souci au niveau des hôpitaux. Là, ce qu'on voit, c'est quand même une faiblesse très très forte qui concerne un système qui gère quand même un certain nombre de délinquants. Donc effectivement, ça n'est pas rassurant pour personne. Et Thalès a intérêt de faire la lumière là-dessus, parce que se pose aussi la question de ces coopérations avec des entreprises privées qui vendent souvent très cher des process qu'elles ne paraissent pas maîtriser privée encore complètement.
C'est un vrai sujet, ça, les sociétés privées, monsieur Covid.
Écoutez, moi, ce que je vois, c'est le recul des services publics. Hein. On est en train de désosser le service public. Hein. On parle de la police, de la pénitentiaire, on peut parler de tous les sujets. Et on met de plus en plus, on contractualise, et notamment avec des sociétés privées. Mais après, ben voilà, les sociétés privées, on voit aussi, aussi
les
problématiques.
Là, en l'occurrence, la pénitentiaire ne peut pas tout faire. Il faut déléguer
mais
aussi.
Mais alors,
la pénitentiaire ne peut pas tout faire, je le sais bien. Faudrait-il aussi peut-être qu'ils aient des effectifs. Mm-hmm. Quand on voit qu'on, je vous dis, encore une fois, on désosse complètement la fonction publique, on supprime les emplois, on est à portion congrue et on ne peut plus rien faire. Donc oui, on donne ça à des entreprises privées, sauf que les entreprises privées, elles n'ont peut-être pas le même souci non plus qu'un fonctionnaire. Voilà.
L'entreprise privée n'a pas les mêmes responsabilités. Autrement dit, quand vous êtes sur du régalien, on va vous permettre de rentrer dans la vie des gens, d'avoir accès à des données extrêmement personnelles que normalement, seul le public devrait pouvoir gérer parce qu'il est engagé à un niveau citoyen. Ce n'est pas le cas de l'entreprise privée et ce n'est pas la critiquer. Pour fabriquer des voitures, on n'a pas besoin de ce niveau-là d'engagement et de ce niveau de protection de l'individu. En revanche, ça commence à poser de problèmes quand on confie des données extrêmement sensibles à des acteurs privés qui n'ont pas le même rôle et qui, je répète, ne portent pas les valeurs de la République et les principes de la République. Ils n'ont pas à les incarner. Le public doit les incarner. C'est un fonctionnement très différent.
La question est, les incarne-t-il tout le temps ?
Ça, c'est une autre question. Mais c'est
la seule vraie question.
Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On évoquera la question des squats. Comment se débarrasser des squatteurs ? On a une situation absolument ubuesque à Toulouse. Une maison est squattée pour la troisième fois en 2 ans. Il y a eu une petite manifestation d'habitants devant pour tenter d'aider les propriétaires à se débarrasser des squatteurs. Et puis, on ira aussi à Biarritz, où Éric Zemmour tient une conférence ce soir avec une ambiance assez mouvementée et des manifestants qui l'attendaient de pied ferme. À tout de suite, dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette maison squattée pour la troisième fois en 2 ans à Toulouse. Une véritable situation kafkaïenne. La propriétaire, qui est une personne âgée, n'arrive pas à vendre cette maison parce que régulièrement, il y a de nouveaux occupants qui viennent s'y installer. On va écouter. Il y a eu une manifestation cet après-midi d'habitants qui sont venus pour tenter de mettre un cadenas sur la porte pour empêcher les squatteurs de revenir, ce qui est tout à fait ubuesque. On va écouter la fille de la propriétaire de la maison et puis les habitants qui sont venus leur prêter main forte.
Maintenant, ce sont d'après eux les nouveaux propriétaires. La maison est vendue et voilà. Mais maintenant, c'est à nous battre donc pour vider les squatteurs, sachant que la maison, ça fait 4 ans qu'on se bat aussi pour la vendre.
Ils quittent la maison de la pauvre famille. C'est une maison de famille qui appartient à une famille depuis des années. Et aujourd'hui, ils ne peuvent même plus accéder à leur maison. Ils ne font même pas d'efforts pour eux. Ils squattent des maisons qui ne leur appartiennent pas. Tout le monde ici trouve ça scandaleux. Et puis, bizarrement, c'est toujours des maisons de personnes âgées qui sont visées, qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes.
Voilà pour cet habitant de Toulouse qui tente d'aider cette dame à récupérer sa maison. Monsieur Couville, les forces de l'ordre, là, sont impuissantes, pareil, ne peuvent pas intervenir.
Alors, normalement, la loi a changé depuis le 1er janvier 2021. Maintenant, ça ne passe plus par la justice. C'est le préfet qui a 48 heures pour agir.
Donc, il met là, ça fait 2 ans, donc il prend le temps. Hein.
Ah bah, alors, ça fait peut-être pas 2 ans que les squatteurs sont dans la maison, mais ils reviennent souvent. Voilà. Après, là, on va voir la réaction du préfet. Je pense que ça va pas tarder, mais j'ose espérer. Donc, 48 heures pour se prononcer, mise en demeure, et le squatteur a 24 heures pour liquider, pour partir de la maison. Donc, on va voir. Sinon, il est expulsé manu militari. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, oui, c'est ubuesque. Et encore une fois, je pense que ces personnes qui squattent des maisons, ce sont aussi des idéologues. Hein, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils vivent...
Ce sont des militants.
Militants, ils viennent.
Christian Proto, sur cette
situation. Moi, ce qui m'étonne, c'est depuis cette loi que tout le monde attendait de ses voeux, parce que c'est quand même étonnant de voir que ça fait des années qu'effectivement, on réalise qu'il fallait des procédures qui n'en finissaient pas pour sortir des gens qui étaient des occupants sans droit. Et je ne comprends pas pourquoi on n'autorise pas, il n'y a pas eu dans le texte la possibilité que la décision puisse être immédiate. Il y a occupation d'un lieu sans droit ni titre, expulsion immédiate par les forces de l'ordre. Et ça, la gendarmerie ou la police serait en capacité de le faire dès que le maire alerterait. Là, il faut passer par le préfet. Je ne comprends pas pourquoi on a encore mis une tartine
sur le millefeuille. Voilà, un tout petit mot là-dessus, Jean-Claude.
Bon, un tout petit mot, c'est le genre de choses qui rendent les Français fous. Parce que ça s'attaque à quand même ce qui fait l'objet de leur vie, c'est-à-dire le droit de propriété. Ces malheureux ont économisé, j'imagine, des années et des années pour s'acheter cette maison. Ils essaient de la vendre, ils n'y arrivent pas, évidemment. On en est à la troisième occupation de gens qui n'ont rien à y faire. Proutot a complètement raison. On ne comprend même pas qu'il y ait des délais. Alors bon, on prend en compte les disponibilités de la police, certes. Non mais, vous ne pouvez pas, une occupation, elle est illégale. À partir du moment où elle est illégale, vous devez intervenir et rendre le bien à son propriétaire. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Mais c'est vrai que pendant des années, au fond, on a montré une certaine complaisance avec ces gens qui essayaient de se loger dans des conditions discutables, certes, mais bon, les propriétaires, après tout...
Il y a un certain nombre de personnes à la rue dans notre pays, Jean-Claude,
oui,
ça ne vous a pas échappé.
Mais
hein.
c'est pas aux propriétaires privés de les accueillir.
Allez, dans les rues, vous verrez. Hein.
Ce n'est pas aux propriétaires privés de les accueillir.
Bon, on est d'accord.
Que l'État fasse son boulot, pour une
fois. Céline Pina.
Il y a un souci. Il y avait un article, je crois, il y a une semaine dans Le Parisien, sur des squats, justement en région parisienne ou ailleurs, qui montrait qu'en fait, ça devenait un réseau. Autrement dit, on vendait des adresses de lieux à squatter, relativement cher aussi. On organise le squat parfois, assez rarement, mais des fois même avec la complicité de certains propriétaires. Mais toutes ces adresses se transmettent. Donc il faut vraiment agir parce qu'on voit que la situation ayant été délaissée, on a maintenant tout un système de délinquance qui se greffe sur une absence de réaction de l'État.
Avec un système organisé, M. Couvi, hein, pour terminer là-dessus.
On appelle ça des vendeurs de sommeil. Il y en a eu beaucoup déjà en région parisienne. Moi, je l'ai fait dans ma carrière où j'ai évincé des squats. Des fois, c'est même dramatique parce qu'il y avait des familles entières, des enfants. Et c'est vrai qu'on est obligé, et c'est vrai, de les sortir. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas rester. Moi, j'ai vu des conditions, franchement, de squats, mais c'était abominable. Et on ne pouvait pas laisser ces gens-là dans des squats. Ils payaient des loyers. Ils payaient des loyers à des voyous. À des voyous qui cassaient les portes, qui louaient les squats.
Qui exploitaient
la misère humaine. Là, par contre, je suis sûr, honnêtement, en grattant, c'est des militants, ça. Ça, c'est des militants politiques, ils sont là. Je ne pense pas que ce soit des nécessiteux. Je pense que réellement, c'est des militants idéologiques.
On va suivre l'affaire. On va se diriger vers Biarritz, où Éric Zemmour est en train de tenir une réunion autour de la promotion de son livre. Il y a visiblement eu pas mal d'agitation, puisque plusieurs manifestants, une dizaine de manifestants, peut-être une centaine de manifestants l'attendaient à l'extérieur de la salle, brandissant des drapeaux. Je ne sais pas si, effectivement, on a les images et le son de cette manifestation où on voit un certain nombre de drapeaux flotter. On traite ceux qui viennent écouter Éric Zemmour d'homophobes ou de fascistes. Voilà, on entend un petit peu la désapprobation de ces manifestants contre la tenue de ce qui n'est pas vraiment un meeting politique vu qu'il n'est pas encore candidat. Mais en tout cas, on voit que ça s'organise un petit peu désormais autour des déplacements d'Éric Zemmour sur le territoire français. On va juste écouter la réaction d'Éric Zemmour quand il est arrivé tout à l'heure à Biarritz. Il était un peu agacé par les questions des journalistes autour de sa candidature.
Emmanuel Macron est candidat. Non. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce qu'Emmanuel Macron est candidat? Est-ce que vous lui demandez à chaque fois que vous le voyez, est-ce que vous serez candidat? Bon. Ben alors voilà.
En même temps, c'est à vous qu'on pose la question.
Eh ben moi, j'ai pas envie de répondre.
Mais vous dites qu'il n'y a plus de suspense.
Mais non, mais il n'y a pas de suspense, les gens. Vous savez, ils ont d'autres chats à fouetter que savoir si je suis candidat ou pas et quand je serai candidat. Posez d'autres questions. Voyez le fond un peu des choses.
Alors, Jean-Claude, là-dessus, un petit peu d'agacement.
Non, non, complètement. Je sais qu'il sera candidat. Donc, pour moi, ça fait déjà longtemps qu'il n'y a plus de problème. Il sera évidemment candidat et prépare, comme il se doit, activement sa candidature.
Christian Proto.
Oui, je partage parfaitement l'avis de Jean-Claude parce qu'il a même répondu à des questions qui étaient des questions à tiroir. On se rendait bien compte qu'il répondait en tant que futur candidat. Donc, tout ça ne tient pas debout. Mais par contre, ça lui sert. Parce que tant qu'il n'est pas candidat, il y a ce suspense des médias. La preuve, c'est qu'il le harcèle de questions.
On va juste écouter quelques-uns de ceux qui manifestaient, puis je vous passerai la parole, Céline, pour Pina, pour qu'on voit un peu ce qui se cristallise autour d'Éric Zemmour.
Il n'y a rien à faire ici. Voilà, donc on est là pour s'opposer. Et quelque part, c'est déjà un climat délétère politiquement. Et avec cette campagne qui s'annonce, ça va être vraiment quelque chose mais d'horrible à vivre.
Je suis en complet désaccord avec ses positions. Étant moi-même franco-marocain, je vous laisse imaginer ma situation. Si jamais en effet ce monsieur deviendrait président, je me sentirais beaucoup moins en sécurité en France, pays de mon enfance, pays des libertés.
Céline Pina, sur ces manifestations qui commencent à s'organiser sur les déplacements d'Éric Zemmour.
Je pense qu'elles sont parfaitement contre-productives. Il se trouve qu'on a énormément de choses dans ce que dit Éric Zemmour, dans les positions qu'il prend pour le contrer, le combattre politiquement. De plus en plus, c'est quand même un homme qui utilise le ressentiment. Il fait beaucoup appel au cerveau reptilien des gens et pas vraiment à leur capacité d'élévation. Si on voit ce qu'il a dit dernièrement sur Dreyfus, sur Pétain, etc., il y a aussi un rapport à l'histoire qui mériterait d'être interrogé. Donc on a de quoi critiquer, on a de quoi se positionner politiquement. En revanche, la diabolisation, les insultes, le fait de vouloir censurer quelqu'un, de l'empêcher de parler, de l'empêcher de porter des idées avec lesquelles on peut être d'accord, pas d'accord, mais non, Éric Zemmour n'est pas un fasciste, il n'a pas de sang sur les mains. Donc, qu'on accepte le combat politique, qu'on le livre, mais qu'on arrête cette diabolisation et ce système de censure, ça crispe tout le monde. Et c'est aussi ce qui fait que, alors qu'il est un personnage très clivant, il réussit quand même à impacter, à faire de l'effet au corps électoral, parce que très souvent, un certain nombre d'électeurs se sentent insultés par cette façon de voir, parce qu'on les a traités un peu trop facilement de fachos, de racistes, y compris quand ils ne l'étaient pas. Et du coup, ils ont tendance à se dire « Oui, non, mais il n'est pas si pire que ça, il n'écoute pas ce qu'il dit vraiment. Ce qu'il voit, c'est qu'il est injustement attaqué. » Il faut arrêter et il faut vraiment porter le débat sur le plan politique. Il y a des choses à dire.
Il y a des risques de violence dans ces manifestations, M. Couville.
Oui, là, on voit, là, j'ai une petite pensée pour mes collègues CRS sur le terrain, là, qui se retrouvent au milieu des anti et des pros Zemmour. Voilà, on est en République, on a le droit de parler de choses et d'autres. Je pense que il a libéré la parole, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il parle en son nom. Moi, ce que je vois, c'est que la police, encore une fois, permet aussi de respecter les lois républicaines. On a le droit de s'exprimer dans la rue, on a le droit de s'exprimer. On est là, justement, pour veiller à ce que tout le monde...
Et il est sous protection policière, car très menacé.
Mais oui, parce qu'il est protégé, oui, forcément. Oui,
j'ai noté qu'il y avait les drapeaux des LGBT, donc je crois que...
J'ai pas identifié les drapeaux,
oui,
c'était
si,
LGBT.
Oui, le drapeau arc-en-ciel.
Mais les autres, j'ai pas identifié.
Je crois qu'effectivement, les déclarations qu'il a faites également autour de ça... qui sont quand même assez tranchées, en particulier hier, quand il avait été interpellé à Drancy.
À Drancy, oui, oui.
Là aussi, toute cette communauté va réagir.
Jean-Claude, un petit mot là-dessus, et après on écoute Marine Le Pen.
Je ne pense pas que les 200 ou 300 manifestants-là fassent grand mal à sa candidature à venir. Simplement, c'est vrai qu'il a un discours très clivant. Je pense que sur le fond, ses positions sont très intéressantes et qu'elles préoccupent et qu'elles répondent aux préoccupations de beaucoup de Français. Et je pense, mais je peux me tromper, que ce ne serait pas la peine, à sa place, ce n'est pas ce que je ferais, ce n'est pas la peine d'en rajouter dans la forme. S'il pouvait pratiquer un peu le sourire et l'humour, accompagnant des propositions qui sont sur l'immigration, sur la sécurité, sur les juges...
Le permis à points, extrêmement forte,
c'est pas la peine d'en rajouter.
Il veut rétablir aussi les 90
km/h. On l'a oublié. Donc il y aura beaucoup de choses, mais je suis d'accord avec Céline, il va falloir le temps du débat et des interrogations et des réponses va venir. Bon, c'est pas 200 ou 300, ils ont le droit de venir, très bien, ils manifestent, mais absolument, c'est pas ça qui va le gêner
aussi.
Une seconde.
On va juste écouter Marine Le Pen qui, elle, était en déplacement, vous le savez, auprès de Viktor Orban en Hongrie. Visiblement, c'est le lieu où il faut aller quand on est candidat à la présidentielle. Éric Zemmour y était il y a quelques jours. On va l'écouter, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National.
Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondée à vous dire, amis hongrois, tenez bon. Mais je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays. Et je crois que le peuple hongrois soutient largement cette politique, comme l'avait d'ailleurs souligné le référendum de 2016. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
Voilà pour Marine Le Pen. Pourquoi cet engouement pour Orban, Jean-Claude?
C'est devenu un personnage important, quasiment incontournable. Zemmour y est allé le mois dernier. Elle y est actuellement, Marine Le Pen. D'autres peut-être suivront. Je pense qu'il défend des positions qui sont très contestables sur un certain nombre de points, on aura l'occasion d'en parler, mais il représente un courant qui est fort, qui est partagé pas seulement en Hongrie, qui est souverainiste, national, fortement identitaire, et il considère, pour aller vite et être simple, que la constitution hongroise, comme la Tchécoslovaquie, et puis certains pensent la même chose que lui en France, que les constitutions des États européens produisent un état de droit supérieur à la Cour de justice européenne ou aux institutions judiciaires, ou à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un débat passionnant qui, à mon avis, va occuper là aussi une bonne part de la campagne électorale. Où est la vérité du droit ? Est-ce que c'est à Bruxelles ? Ou est-ce que c'est dans les États-nations de l'Union européenne ?
Oui, c'est effectivement ce qui fait que Viktor Orban a un tel impact sur une partie de l'échiquier politique. Après, Orban, ça n'est pas que ça. Il y a quand même des choses qui sont nettement plus contestables. Ouais, c'est quand même des attaques aux libertés individuelles. Et il va falloir faire la balance entre les deux. Mais en revanche, oui, l'attrait pour Orban est lié à cette façon de se positionner et à affirmer la supériorité de la Constitution. Mais on peut ne pas aller aussi loin que chez Viktor Orban. Quand on regarde la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, elle impose les mêmes choses. On peut le faire sans sombrer dans un discours européen aussi dur sur les droits individuels, en gardant une ligne démocratique et humaniste. Et c'est ce que j'aimerais retrouver. C'est-à-dire, aujourd'hui, je trouve intéressant l'analyse que fait Jean-Claude, mais j'aimerais bien qu'elle soit portée par des partis humanistes, par des partis démocrates, par des partis qui ne sont pas aux extrêmes, parce que c'est tout à fait possible. Et ça éviterait, en fait, si aujourd'hui les extrêmes font 35%, c'est en partie à cause de ça.
Un tout petit mot, Christian Proto.
Je trouve dommage qu'une réflexion qui pourrait se faire sur l'Europe soit obligée de passer par Orban, par Viktor Orban, dont on sait quand même que ce n'est pas un modèle démocratique que l'on souhaite pour notre pays.
Voilà. Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il y aura d'autres candidats de la droite qui vont y aller ?
Je ne suis pas sûr. Ciotti peut-être, mais je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, non, on ne peut pas nier qu'il y a un problème sur l'Europe quand même. Et la manière dont elle fonctionne, se mêlant à peu près de tout, mais échouant sur beaucoup de points qui nous paraissent essentiels, je ne parle pas du Covid ou d'immigration, il y a un vrai débat. Et il nous faudra à coup sûr une organisation européenne probablement nouvelle. Vous allez voir que et Macron, et Le Pen, et Zemmour vont s'affronter durement sur ce point avec d'autres, je n'oublie personne.
Et on y reviendra évidemment dans le débat de Les Républicains qu'on organisera avec Europe 1 et CNews le 21 novembre, évidemment avec Sonia Mabrouk. Voilà, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe pour la suite de Punchline. Et tout de suite, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zelani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
L'horreur du meurtre de Mireille Knoll en procès, deux hommes devant les assises pour avoir tué cette femme âgée de confession juive. L'un d'eux a pris la parole cet après-midi. Récit dans un instant.
La polémique sur les caméras de surveillance après des tirs contre des policiers hier soir dans le quartier de la Duchère à Lyon. Gérald Darmanin en veut davantage des caméras. Marine Le Pen joue la stature internationale à Budapest. Tapis rouge et rencontre au sommet avec le président ultra-conservateur Viktor Orban. Et puis, c'est plutôt inédit, les arbitres de foot font leur mea culpa. La vidéo, c'est bien, mais pas encore parfait.
Un mot de la tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Un mercredi souvent gris, mercredi matin, avant le retour du soleil l'après-midi. C'est une journée calme qui nous attend. Et je vous détaille tout ça à la fin du journal.
Europe 1.
Mireille Knoll avait échappé à la rafle du Veldiv à 85 ans. Elle a été tuée à coups de couteau chez elle un jour de mars 2018.
Oui, cette vieille dame qui souffrait de la maladie de Parkinson vivait dans un modeste appartement d'un quartier populaire parisien. Deux hommes comparaissent donc depuis ce matin devant les assises de Paris. Ils se rejettent la responsabilité du meurtre. Yacine Mioub, qui connaissait la victime depuis ses 8 ans, reconnaît tout de même une petite partie des faits, Gladys Laffitte.
Ah oui, face à la cour, l'accusé de 31 ans qui s'exprime clairement reconnaît l'incendie de l'appartement, mais pas le vol ni le meurtre. Mais c'est d'abord sur son parcours qu'il a longuement été interrogé. Une enfance marquée par l'alcoolisme de son père et par sa propre violence dirigée vers ses sœurs, qu'il tabasse, mais pas fort, détaille sa mère à la barre. Elle aussi est accusée. Tous deux expliquent ce passé violent par un viol qu'il subit à ses 12 ans à l'internat. Yacine Mioub s'essuie le front et remonte ses lunettes en permanence. Il est parfois tempéré par son avocat. Sans emploi et sans domicile fixe, il vit du RSA à l'époque des faits et a de gros problèmes d'alcool, dit-il. J'étais plus au bar qu'à la mosquée, j'ai dû boire plus de 1000 flasques et il n'y a pas eu tant de drames, minimise-t-il en posant son regard vers la famille de la victime. Debout dans le box, son ton devient défensif face à l'avalanche de questions du président, notamment lorsqu'il évoque son casier judiciaire rempli de condamnations pour vol, agression sexuelle ou encore pour de fausses alertes à la bombe dont il s'était fait une spécialité. C'est fait, je ne peux pas effacer, dit-il en guise d'explication. C'est sûr, appuie le président.
Gladys Laffitte au palais de justice de Paris pour Europe 1.
Depuis ce matin, des policiers casqués et armés patrouillent dans le quartier sensible de la Duchère à Lyon.
Oui, c'est là qu'hier soir, trois policiers de la BAC ont été visés par des tirs. Aucun n'a été blessé. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt l'absence de caméras de vidéosurveillance dans le quartier Océane Théard.
Oui, dès ce matin, pendant une conférence de presse consacrée à l'action du gouvernement en matière de sécurité, Gérald Darmanin déplore l'absence de ces caméras de surveillance dans le quartier de la Duchère. Il dit avoir envoyé aujourd'hui un courrier à ce propos au maire Grégory Doucet et ce n'est pas la première alerte d'après le ministre de l'Intérieur.
Ça fait 3 fois que je lui en parle en 1 an et demi, de mettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Nous appelons les maires de France et singulièrement monsieur le maire de Lyon de sortir l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection.
En fin de matinée, Grégory Doucet contre-attaque. Le maire convoque la presse à l'hôtel de ville et l'affirme face au micro. 60 caméras en parfait état, d'après lui, sont déjà installées dans le quartier de la Duchère.
Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Le maillage de vidéosurveillance n'est donc pas à blâmer, d'après le maire de Lyon, dans le cas de cette attaque de 3 policiers de la BAC. Sur demande du ministère de l'Intérieur, 70 policiers procèdent en ce moment à une opération de sécurisation. Ils surveillent depuis le début de l'après-midi le point de deal où a eu lieu la fusillade, l'un des plus importants du quartier de la Duchère.
Et quant au tireur, il est toujours activement recherché. Gérald Darmanin qui affirme que 7 nouvelles structures prônant l'islam radical seront dissoutes d'ici la fin de l'année, associations ou lieux de culte. La mosquée d'Alon dans la Sarthe est notamment fermée pour 6 mois.
Sécurité toujours, aussi étonnant que cela puisse paraître, et c'est d'ailleurs inquiétant, des milliers de bracelets électroniques utilisés pour les contrôles judiciaires sont tombés en panne hier.
Oui, la moitié dans toute la France, une panne qui a duré plus de 5 heures, mais heureusement aucun incident n'a été constaté, Wilfried de Villers.
Au total, cette panne de grande ampleur a concerné environ 7250 personnes placées sous surveillance électronique sur l'ensemble du territoire, selon des informations des sources au ministère de la Justice. À partir de 16h d'ici hier, les bracelets ont tout simplement cessé d'émettre leur position. 2 heures de coupure avant une reconnexion progressive vers 18h10, mais il faudra attendre 21h50 pour une remise en service totale du système de surveillance. Le dysfonctionnement a également touché la moitié des bracelets anti-rapprochement, ce dispositif censé protéger les femmes victimes de violences en tenant leur ex-conjoint à distance. C'est la société Thales, chargée de la gestion du dispositif de surveillance, qui a donné l'alerte hier. Elle assure que les porteurs de bracelets n'avaient aucun moyen de savoir que ces derniers étaient hors service. Et vous le disiez, Hélène, aucun incident n'a été signalé. Par mesure de précaution, les dispositifs concernés par la panne sont en cours d'analyse pour vérifier si les porteurs ont bien respecté les conditions de leur surveillance judiciaire. Encore peu d'informations sur les raisons de ce problème technique. Plusieurs responsables de la société Thales doivent être entendus prochainement par la direction de l'administration pénitentiaire.
Merci Wilfried de Villers. Et puis si vous êtes abonné SFR, vous l'avez peut-être constaté, un incident a touché le réseau mobile et les accès Internet dans plusieurs grandes villes. Selon l'opérateur, le problème dont l'origine reste inconnue serait en passe d'être résolu.
Être parent, c'est aussi se poser des questions. Voilà le thème de la nouvelle campagne pour aider parents et futurs parents lorsque l'enfant paraît.
Oui, une campagne qui sera lancée le mois prochain dans les médias, sur les réseaux sociaux. Les 1000 premiers jours sont en effet cruciaux pour le développement des petits, Virginie Riva.
Oui, car ils sont fondamentaux pour l'enfant, son développement, une période pas toujours facile à appréhender pour les parents. 1000 jours, c'est l'addition des mois de grossesse plus les deux premières années d'un enfant. Pour les pouvoirs publics, c'est là que sont posées les bases du bien-être, de l'apprentissage, des liens affectifs pour toute leur vie, mais aussi pour les générations d'après et de la santé. Bien sûr, voilà pourquoi c'est un enjeu de santé publique, qu'il s'agisse d'obésité, de risques cardiovasculaires, de violences subies ou commises plus tard, d'addictions qui pourront se développer. C'est là que se creusent également les inégalités de destin selon la classe sociale de l'enfant. Voilà pourquoi un site internet et une application sont lancés pour répondre au mieux aux parents. Des parents qui vont trop souvent sur les réseaux sociaux face à la multitude de questions qu'ils se posent. Le site propose donc des réponses scientifiques sur l'alimentation, mais aussi les perturbateurs endocriniens, l'allaitement, les violences éducatives. Et dès cette semaine, les futurs parents, dès le 4e mois de grossesse, recevront également un livret envoyé par leur CAF.
Merci Virginie Riva.
Allez, une petite pause et dans un instant, Marine Le Pen sur les terres de l'anti-européen Viktor Orban.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zellani. Hélène, un mois après Éric Zemmour, c'est donc au tour de Marine Le Pen de se rendre à Budapest pour rencontrer le président hongrois Viktor Orban.
Oui, deux personnalités d'extrême droite qui partagent les mêmes idées en matière de souveraineté et d'immigration. La présidente du RN a eu droit au tapis rouge, puis au déjeuner, avant une déclaration commune, un déplacement pour tenter de consolider sa posture de présidentiable, Alexandre Chauveau.
Oui, et le décor était symbolique. Deux drapeaux hongrois derrière Viktor Orban, deux drapeaux français derrière Marine Le Pen, et un détail qui n'en est pas un, l'absence de drapeau européen. La candidate du Rassemblement national a ensuite prononcé un discours d'une dizaine de minutes avec une cible principale, l'Union européenne, une organisation fédérale dirigée par un pouvoir centralisé, enivré de sa puissance, dit-elle, avant de louer la politique migratoire de Viktor Orban.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
Marine Le Pen a aussi beaucoup insisté sur le caractère politique de sa rencontre pour se démarquer d'Éric Zemmour, reçu un mois plus tôt à une conférence sur la démographie et en qualité d'intellectuel. Elle veut endosser le costume de présidentiable et s'imposer comme une des figures de l'alliance conservatrice qu'elle appelle de ses voeux au sein de l'Union européenne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron, encore une fois sur le terrain à Médan, précisément dans les Yvelines, où il vient d'inaugurer le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus.
Oui, un musée installé dans la maison d'Émile Zola, fervent défenseur du capitaine Dreyfus. L'occasion pour le président de lancer un appel aux plus jeunes pour qu'ils n'oublient pas.
Alors je le dis à tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et à toutes celles et ceux qui viendront dans cette maison, dans ce musée, n'oubliez rien de ces combats passés. Parce qu'ils vous le disent et vous répètent que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays comme notre République, ne sont pas des acquis. Ils sont le fruit de combats essentiels. Ils sont le résultat de vies de femmes et d'hommes sacrifiés. Dans des guerres, mais parfois dans des combats oubliés, intimes. Dans des batailles comme celles que Dreyfus et Zola ont menées. Et toutes celles et ceux qui les ont accompagnés. Notre devoir, c'est de transmettre ces combats, mais avec eux, la force d'âme qu'il faut avoir pour les mener.
Et Emmanuel Macron, micro-Europe 1 de Jacques Serret, et ce lieu de mémoire ouvre au public jeudi, c'est donc à Médan, dans les Yvelines. Emmanuel Macron, dont on apprend ce soir qu'il va rencontrer Joe Biden à Rome vendredi. Les deux présidents se verront avant le sommet du G20, une première depuis l'affaire des sous-marins. Et puis, nouvelle inquiétude pour la santé de la reine d'Angleterre à 95 ans. Elle renonce à participer à la COP26 sur conseil de ses médecins. Christine Angot décroche le prix Médicis pour le voyage dans l'Est. Elle est également retenue parmi les quatre finalistes du prix Goncourt. Verdict le 3 novembre.
Quand des arbitres de foot font leur mea culpa, c'était ce matin lors d'un premier bilan de la saison de Ligue 1.
Oui, bilan de la direction technique de l'arbitrage français. Vous y étiez, Jean-François Pérez. Certes, il y a eu des situations litigieuses à plusieurs reprises, mais l'erreur est humaine et ils le reconnaissent.
Oui, et notamment autour d'un match qui a fait beaucoup jaser, PSG-Angers il y a 10 jours. Victoire parisienne 2-1 avec deux buts très litigieux, validés par la VAR, l'arbitrage vidéo. Ce qui avait valu à Gérald Baticle, l'entraîneur angevin, cette sortie désabusée.
Ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice.
Fait plutôt rare par la voix de leur patron Pascal Garibian, les arbitres avaient reconnu leurs erreurs ce soir-là. Ils l'ont répété ce matin, le bilan de l'arbitrage vidéo est bon, mais il est encore loin d'être parfait, avec environ une erreur sur trois non corrigée. Stéphane Lannoy, ancien arbitre, aujourd'hui en charge de la vidéo.
On comprend la frustration, l'agacement des joueurs, des spectateurs, des téléspectateurs. On a constaté depuis le début de la saison un certain nombre de manquements clairement identifiés. C'est pas une copie blanche et propre aujourd'hui, mais on continue de travailler pour faire en sorte de répondre aux attentes du foot.
Dimanche soir, pour le trait médiatique OM PSG, l'arbitrage de Benoît Bastien et de la VAR était scruté à la loupe. Mention très bien pour une direction nationale de l'arbitrage, désormais résolue à franchir une nouvelle étape historique, celle de diffuser tout ou partie des conversations des arbitres pendant les matchs.
Et Jean-François, puisqu'on parle foot, un match de qualification pour la Coupe du Monde féminine vient de se jouer entre la France et le Kazakhstan. Les Bleues continuent leur parcours sans faute. Elles l'ont facilement emporté 5-0, soit 5 victoires en 5 matchs.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-ECNAPS.
Et pour la météo, une journée calme avec du grand soleil l'après-midi dans de nombreuses régions, Marlène Duret.
Oui, l'après-midi. Alors, il y a quelques régions quand même qui profiteront déjà du soleil le matin. Ce sera les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ensemble des Alpes, une partie de la Franche-Comté, puis aussi à l'ouest du Massif central, en tirant vers le Limousin, la Dordogne, encore l'Aveyron, partout ailleurs. La journée débute sous la grisaille avec des zones de brouillard parfois très étendues, des brouillards parfois assez épais. Il faut dire que ça peut réduire la visibilité, donc prudence évidemment au petit matin sur les routes. L'après-midi, le soleil va pouvoir s'imposer là où le temps était gris et brumeux, sauf du côté de la Bresse, du Val-de-Saône, de la vallée du Rhin. La dissipation semble plus laborieuse. Près de la frontière belge, les apparitions du soleil seront plutôt timides. Hein. Et puis, ciel variable du côté de la Corse avec des nuages qui peuvent déborder sur la Côte d'Azur. Les températures maximales peuvent plafonner entre 10 et 12 degrés sous les grisailles tenaces, a priori du côté de Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier dans le Jura ou encore en Alsace. Mais en général, elles atteindront 15 à 19 avec 17 à Paris, à Caen, à Bourges. On attend 18 à Guérande, 19 degrés à Montluçon et puis ça monte jusqu'à 20 à 23 au sud de la Garonne ainsi que dans le sud-est avec par exemple 22 degrés du côté de Marseille.
Merci beaucoup Marlène Duret pour cette météo. Merci à vous Hélène Zélani. Rendez-vous demain à 19h pour l'info. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline. On évoquera le voyage de Marine Le Pen en Hongrie. On évoquera aussi les premières manifestations autour des conférences d'Éric Zemmour. En ce moment, c'est à Biarritz. Et puis aussi la violence à La Duchère, à Lyon, des policiers de la BAC pris pour cible par des armes automatiques. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
Et non, Punchline, ce soir, on accueille Maxime Liedo. Bonsoir. Journaliste et écrivain, bienvenue. Génération fracassée, c'est votre livre aux éditions.
Ailleurs, toujours.
Merci. François Pupponi est la députée apparentée MoDem du Val-d'Oise. Bonsoir, François.
Bonsoir.
Et nous sommes avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
Bonsoir, Laurence.
Beaucoup de choses au menu ce soir. On va parler d'Éric Zemmour avec une rencontre un peu mouvementée ce soir. Il y a des manifestations qui se commencent à s'organiser à chaque déplacement d'Éric Zemmour. On verra ce qu'il lui reproche. On parlera de Marine Le Pen, elle, qui est en Hongrie, aux côtés de Viktor Orban. On écoutera ce qu'elle a à dire. Mais on va juste commencer par ces violences à Lyon, dans le quartier de la Duchère, parce qu'elles ont été l'occasion d'un incident entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est un maire écologiste. Trois policiers de la BAC ont essuyé des tirs à l'arme automatique alors qu'ils surveillaient un point de deal. Et évidemment, ça a provoqué une passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur, qui reproche le fait qu'il n'y ait pas assez de vidéosurveillance dans ce quartier-là, au maire Grégory Doucet. On va écouter d'abord un extrait de ce qui s'est passé à Lyon.
Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Voilà pour le maire de Lyon, donc Monsieur Doucet, qui explique que précisément à l'endroit où les policiers se sont fait tirer dessus, François Pupponi, il n'y avait pas de caméra, mais qu'il y en a une soixantaine ailleurs. Est-ce que ça vous va comme réponse ou c'est un peu court ?
Non, parce qu'il nous dit la semaine dernière, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de caméra. Mais le deal, il existe depuis des semaines, voire des mois, voire des années. Voilà. Donc, il est maire depuis un an et demi. Mais effectivement, avant, c'était Gérard Collomb. Mais s'il avait démissionné quelque temps avant. Et donc, ça veut dire que ce lieu de deal qui est connu sur Lyon n'avait pas fait l'objet de vidéoprotection. Bon, voilà, il faut assumer quand on n'a pas géré un problème comme celui-là. Alors, il va vivement le rectifier. Mais voilà, ça n'a pas été fait avant et je pense que c'était une erreur.
Effectivement, Louis de Raguenel, Gérald Darmanin a sauté sous l'occasion pour lui rappeler et rappeler à tous les maires de France l'importance de la vidéoprotection.
Oui, absolument. D'autant que ce gouvernement a lancé en fait une série de contrats entre les collectivités, les mairies en fait, et le ministère de l'Intérieur. Ça a commencé il y a un an et demi à Toulouse, justement pour le ministère de l'Intérieur en fait dote les villes de plus d'effectifs de police nationale et de l'autre côté en fait les communes s'engagent à installer beaucoup plus de vidéoprotection. protection. Et puis aide aussi, il y a tout un dispositif d'accompagnement, notamment pour mieux scolariser les enfants de policiers, le dispositif de crèche. Donc en fait, pour Gérald Darmanin, s'il y a quelque chose d'assez insupportable, on va lui reprocher en fait un mauvais bilan. Et de l'autre côté, en fait, ça dépend essentiellement de la responsabilité des maires. Et alors c'est vrai qu'après, si on dézoome un tout petit peu, c'est une tendance en fait qui est en train de s'accroître, c'est-à-dire que la compétence de la sécurité est en train de passer de la police nationale à de plus en plus une police municipale, la sécurité privée et donc les maires.
Maxime Liedo, sur cette petite passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et le maire.
La passe d'armes, je ne comprends même pas pourquoi elle se fait sur ce sujet, parce qu'il y a en effet un petit élément sur les caméras de vidéosurveillance, d'accord, mais c'est quoi le problème? C'est qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance ou que c'est qu'en France, aujourd'hui, on tire sur la police? Pardon, mais c'est ça le vrai sujet, c'est surtout qu'il y ait des policiers aujourd'hui, c'est toujours le même problème, où il existe quand même un énorme problème de formation, et même eux le disent, est-ce qu'on est aujourd'hui prêt dans d'autres grandes villes de France? Ici, c'est Lyon, ça a été le cas quand même largement à Marseille pendant toute une partie de l'été. On ne parle pas tous les étés d'été meurtrier à Marseille, même si parfois, hélas, c'est un pléonasme. Maintenant, c'est quand même le vrai sujet. Beaucoup aujourd'hui disent, écoutez, déjà, les fameuses cartouches qu'on doit tirer par an, on n'en touche pas assez. Il y avait un rapport de la Cour des comptes en 2017 qui expliquait que ça ne se faisait pas. Et un rapport du Sénat en 2019 qui expliquait que sur ce thème, précisément de la formation des policiers sur les armes et sur les séances de tir nécessaires à la, je cite, à la bonne utilisation des armes. Quand cela n'était pas fait, il y avait convocation à la hiérarchie, et quand ce n'était pas convocation à la hiérarchie, c'était obligatoirement rattrapage de ces heures perdues. Or, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas, et malheureusement, ce manque de formation, ça peut quand même, malheureusement, mettre les policiers dans la panade.
Oui, enfin là, ce n'est pas vraiment le sujet de la formation. François Bupponi, juste, on tire à la kalachnikov, là, hein, parce que là, c'est des armes automatiques.
On l'avait annoncé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on attaque les trafiquants et les dealers, ils vont se défendre. Ils vont pas laisser arriver les policiers en disant excusez-nous, on s'en va, on vous a dérangé.
On ne tirait pas sur les policiers avant, c'est vrai.
Comment ?
On tirait pas sur les policiers avant.
Mais il y a une nouvelle délinquance maintenant, de jeunes complètement déstructurés, souvent qui prennent des produits aussi, ils en vendent mais ils en prennent, et qui n'ont plus peur de rien. Les policiers le savent, ils savent qu'ils vont, ils risquent leur mort. Un jour ou l'autre, on sait très bien que des policiers vont être tués dans ce cadre-là.
Il y a eu le cas avec Éric Masson, malheureusement, il y a quelques mois. Louis Dragnel.
Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Pupponi, c'est que, en fait, on ne peut pas se satisfaire de l'argument c'est parce que la police les dérange qu'il y a des ripostes. Moi, je pense que ce n'est pas du tout parce que la police les dérange, c'est parce que là, pour le coup, il y a un seuil qui a été franchi qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Et ensuite, là où Maxime Liedo a raison, c'est que la vidéoprotection en soi, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Et en fait, le problème, c'est que vous avez beau mettre toutes les caméras de vidéoprotection, je pense que ça résoudra une partie du problème, mais pas tout le problème. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser effectivement aux moyens. Moi, je pense que le moyen n'est pas du tout suffisant. Ce qu'il faut, et on voit qu'Emmanuel Macron a commencé à le faire à Marseille, c'est l'objectif, c'est de reconquérir complètement ces territoires, d'asphyxier les trafiquants et de les désarmer. Et donc, pour le coup, il n'y a qu'une seule solution, c'est ce qui a été fait à Marseille, donc c'est mettre à demeure des unités de force mobile, des CRS ou des escadrons de gendarmes mobiles qui arrêtent de bouger, parce qu'en fait, à chaque fois, là, c'est ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur annonce le renfort, je crois, de 70 policiers. Ils vont venir aller pendant 3 à 4 jours, et puis après, ils vont repartir. Et donc, en fait, on ne résout jamais le problème. Moi, je pense qu'on est dans une logique de reconquête territoriale, et donc, il faut sanctuariser. Il y a 2 CRS maintenant à Marseille. Pourquoi pas 4 de manière pérenne à Lyon, et qui sont chargés matin, midi et soir de ne faire que ça et de reprendre le terrain. Et en fait, on a tourné le problème, honnêtement, ça fait 15 ans qu'on tourne le problème dans tous les sens. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution.
Donc il n'y a pas de présence policière permanente.
Il manque 40 000 policiers pour faire ça, on le sait, il faut les recruter.
Spécialisés dans le maintien de l'ordre.
Mais tant qu'on ne les recrute pas, tant qu'on ne les forme pas pour cela, on ne pourra pas tenir.
Ce n'est pas les gardiens de la paix de 20 ans.
Et pour ajouter à cela, je trouve que Louis Dragnel a totalement raison quand il parle notamment. Non, mais du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi, mine de rien, un décalage permanent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand ça fait plusieurs mois qu'on voit ces images, malheureusement un peu trop souvent, qu'on a cette fameuse phrase « on ne cédera rien, on est sur le terrain, ils ne passeront pas, nous empêchons les trafics de drogue de dormir », bon alors ils dorment peut-être pas beaucoup, mais ils manient les armes russes à la perfection. Donc c'est un choix, et je trouve que c'est de plus en plus flagrant, cette espèce de différence entre la parole politique qui malheureusement n'est pas souvent suivie de fait, et les actes sur le terrain.
Si je peux me permettre,
vous pouvez.
On a laissé les terrains aux mains des dealers depuis des années. Ils ont pris le pouvoir, ils occupent le terrain, ils sont surarmés. Bon. on ne va pas les déloger comme ça du jour au lendemain facilement. Ça va durer longtemps. Il y aura des morts. Il y aura des morts. À la fin, je suis convaincu que la République gagnera, mais ça prendra un an, deux ans, trois ans, quatre ans, le temps qu'on forme. Mais il y aura des morts, parce que ces jeunes-là ne se laisseront pas déloger comme ça facilement.
Alors, parce qu'il y a trop d'argent en jeu aussi.
Mais bien entendu, c'est des centaines de milliers d'euros. Et puis je répète, ce sont des jeunes qui sont complètement déstructurés, donc qui n'ont plus peur de rien. Ils n'ont rien à perdre. Donc ils vont tirer. Ils ont tiré à Lyon, ils tireront à Marseille, ils tireront ailleurs. Les policiers le savent. À la fin, la République gagnera, mais ça va prendre du temps.
Et là, Gérald Darmanin, il fait un peu de politique aussi. En passant, surtout, on est à quelques mois de la présidentielle, il attaque un maire écologiste, réalité, c'est pas ça. C'est ça.
Il dit ça, mais le maire vert de Lyon, il est là depuis un an et demi. Hein.
Oui.
Je suis d'accord avec vous, mais la question de la sécurité, ça a été une priorité. Enfin, c'est une priorité maintenant depuis 10 ans à toutes les élections, notamment les élections municipales. Oui. On sait très bien que les écolos sont très, très peu à l'aise sur cette question de la sécurité. Honnêtement, on a perdu beaucoup de temps, là je parle au niveau national, avec les écolos qui faisaient partie de cette gauche qui considérait que c'était du flicage, une atteinte aux libertés
individuelles. Sur Lyon, on ne peut pas le rendre responsable de tout.
Vous avez raison.
Gérard Collomb, qui a longtemps été maire de Lyon, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui visiblement n'avait pas mis les caméras. Voilà, donc
c'est vrai.
Mais à côté de ça, les Verts ont un déficit politique sur ce sujet-là, c'est réel.
Maxime Liedo.
Et là où, en effet, il faut souligner ça, c'est toujours un peu, même si je sais que c'est le rôle du politique, c'est comme ça, je trouve ça assez gênant qu'en fait, la seule chose qu'on retienne de cette journée, de ce qui s'est passé hier soir, c'est finalement le problème de vidéoprotection, alors qu'accessoirement, on s'habitue à ces scènes de flics. Je suis étonné qu'on retienne seulement la petite phrase assez minable au passage de Gérald Darmanin sur la vidéoprotection, quand on sait que
des policiers se font...
Mais parce qu'il lui a proposé ce qu'il a dit, il a quand même proposé trois fois au maire de Lyon d'installer ses contrats.
Mais là, c'est pas le sujet. Il y a des policiers
qui ça a été refusé par le maire de Lyon.
D'accord, mais pardonnez-moi de trouver ça un tout petit peu à côté de la plaque, qu'on retienne et de faire justement de la politique politicienne sur ce coup-là. On devrait plutôt s'assurer des policiers et de comment ils vont et de pas
sur ce coup. C'est quand même le maire de Lyon qui, hier, devant toutes les caméras, a expliqué qu'on manquait de policiers, qui a un peu commencé. Le mieux sur ces sujets-là, qu'on ne fasse pas de polémique, ni les uns ni les autres. Parce qu'une petite phrase entraîne une autre, effectivement, tient tout ça.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On écoutera Éric Zemmour, il est en déplacement à Biarritz. Il y avait un petit comité d'accueil qui l'attendait avec des manifestants qui n'étaient pas d'accord avec sa venue. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on va s'intéresser au déplacement d'Éric Zemmour à Biarritz, avec évidemment toujours la promotion de ce livre à la clé. La France n'a pas dit son dernier mot. Des déplacements qui sont faits des meetings politiques, même s'il n'a pas encore déclaré sa candidature. Là, cette fois-ci, à son arrivée dans le Pays Basque, il y avait un comité d'accueil, des manifestants, avec différents drapeaux. On va écouter ce que reprochent les manifestants à Éric Zemmour.
Raciste, Zemmour, homophobe.
C'est la liberté, et avec un homme pareil, adieu la liberté. C'est effrayant. Il est en dehors de tout sentiment républicain.
Moi, je suis élue à la ville de Biarritz. Je trouve scandaleux que ce monsieur vienne ici répandre ses idées néfastes. Je suis là pour montrer qu'il a une opposition en face de lui. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme lui. C'est un monsieur qui a été condamné deux fois et qui a encore d'autres procès en cours. Donc ce monsieur n'incarne en rien la République qu'il pense ou qu'il croit défendre. Au contraire.
Voilà pour ces réactions recueillies par Stéphane Place. Ça s'organise un peu, François Popeni, en manifestation autour de Éric Zemmour.
Oui, bien sûr, ça va monter de plus en plus, surtout lorsqu'il annoncera ce qu'on pense à sa candidature. Mais on retrouve ce qu'on a vécu avec Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à l'époque, Le Pen ne peut pas faire certains déplacements sans qu'il y ait des manifestations d'opposants. Ça sera le cas pour Éric Zemmour, c'est-à-dire que maintenant, il est... repérer, cibler, effectivement, les gens, ce qu'on appelle les antifas, vont être systématiquement présents dans la rue, souvent, pour l'empêcher de s'exprimer. C'est classique. Ça ne le dessert pas forcément, parce que je pense qu'au contraire, il trouve ça d'intérêt, mais ça mobilise ceux qui n'ont pas envie de le voir arriver à la tête du pouvoir.
On va juste écouter, dans cette salle, à Biarritz, ce qu'il disait, Éric Zemmour, il y a quelques instants.
L'État a abandonné ses compétences essentielles de sa souveraineté. Il se reporte sur d'autres missions pour régir la vie des gens. L'État est à la fois désarmé et totalitaire. L'État a désormais un nouveau rôle qu'il s'est arrogé, lutter contre les injustices ou contre les prétendues injustices. Certains sont prêts à mettre un fonctionnaire dans chaque chambre à coucher pour vérifier que l'on respecte bien le principe d'égalité et la juste répartition des tâches ménagères. D'autres sont prêts à taxer le moindre véhicule à moteur pour sauver leur bonne conscience écologique. Mais ce n'est pas notre France.
Maxime Liedo, une réaction à ce qu'on vient d'entendre et aussi aux manifestants qui commencent à s'organiser.
Alors, les manifestants, ils ont déjà totalement le droit de le faire. Éric Zemmour a réussi à accéder à la salle. Ils expriment des désaccords. Jusque-là, ça va. Je veux dire, c'est pas le premier à qui c'est arrivé. C'est pas le premier à qui ça va arriver dans les prochains mois. Donc, juste là, on est en démocratie, tout va bien. Maintenant, je suis toujours un peu. J'ai du mal à trouver les mots quand j'écoute des extraits d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que souvent, ça part assez bien. C'est-à-dire que quand l'État est devenu impuissant, c'est juste. Et puis après, les explications, c'est comme quand ce week-end, il dit qu'il veut retirer les permis à points. Alors pourquoi ? L'explication, ça s'en mêle.
Supprimer le
permis à points. Donc c'est toujours là où ça pêche, à mon sens, chez Éric Zemmour. C'est que d'un point assez intéressant, on part dans des digressions qui sont toujours un peu aberrantes ou du moins surprenantes. Et je n'arrive pas à le suivre.
Mais alors sur le permis à points, je pense qu'il vise une catégorie très clair,
ah,
c'est le vote des automobilistes.
Hein. Oui, le vote des automobilistes
très, très
et même
tactique.
Les catégories populaires, c'est-à-dire ceux qui ont besoin totalement.
Mais c'est d'ailleurs
très intéressant.
Et tout le monde a un rapport personnel à l'amende, au radar. Enfin, non, mais c'est.
Ah bon
non, mais objectivement, c'est vrai. Je ne connais pas beaucoup de gens qui roulent tous les jours qui ne se sont jamais fait flasher.
Oui, non, mais c'est ça.
Il ne faut pas oublier tout. Édouard Philippe, à l'époque, sur les 80 km/h.
Et la taxe carbone,
mais c'est des sujets extrêmement sensibles. Et là, il a tapé juste. Alors, c'est très démagogique parce qu'effectivement, le permis à points a permis de lutter contre les accidents, les morts sur la route, etc. Mais par rapport à un électorat potentiel, il a tapé juste.
Et là, il veut la limitation à 90 km/h partout.
Oui.
On en a fin de la limitation à 30 à Paris aussi.
Et dans les grandes villes, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la ville.
C'est que les propositions d'Éric Zemmour paraissent crédibles ou paraissent audibles parce qu'on a eu des décisions qui ont été aberrantes pendant des années. On a tellement taxé les automobilistes, on les a tellement empêché, notamment dans les grandes villes. On a parlé de Paris il y a quelques mois, mais c'était déjà le cas à Nantes, la limitation à 30 km/h. Les 80 km/h, ça reste incompréhensible. Je rappelle que des préfets ont eu l'autorisation, il me semble cet été, de remettre certains tronçons s'ils estimaient juste à 90. Donc on voit bien que, quand bien même ça partirait d'un bon sentiment, on voit bien que le bien fondé de ces mesures ou les décisions de ces mesures, surtout quand elles viennent de l'État, ne sont pas toujours pertinentes. Donc c'est logique qu'il arrive à toucher un électorat.
Louis Dragnel.
En fait, moi, ce que je trouve intéressant quand même dans la stratégie d'Éric Zemmour, c'est à peu près la même que celle d'Emmanuel Macron en ce moment même. C'est-à-dire qu'il détecte des signaux faibles qui ne sont pas des sujets qui sont sur le devant de la scène politique, mais sur lesquels tout le monde a un avis. Sur la question du permis à points, sur la question des limitations de vitesse, tout le monde a un avis. Tout le monde a ce qu'on évoquait tout à l'heure, un rapport à est-ce que je me suis fait contrôler de manière injuste, c'est dégueulasse, je roulais un kilomètre heure trop vite, et du coup j'ai été verbalisé, là où il y a des fraudeurs qui sont... Voilà. Tout le monde a un rapport très personnel. Sur la question, par exemple, de l'immixtion de l'État, donc il parlait effectivement de la tendance donc vers l'égalité effectivement des tâches entre les femmes et les hommes, voilà,
tout le monde
a un avis sur ce sujet. En fait, globalement, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes êtes contre, mais ça change,
c'est aberrant de dire qu'on veut mettre un fonctionnaire de police dans chaque foyer pour vérifier.
Laurence, il dit pas que c'est le cas. Il dit voilà la tendance, l'idée générale du gouvernement, c'est celle-là. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de la même manière que par exemple Emmanuel Macron avait identifié la question de l'éolien, la question des compteurs Linky, vous voyez que des sujets qui sont pas politiques mais qui concernent la vie des gens. Éric Zemmour fait exactement la même chose. Et c'est ça qui désarçonne tout le monde parce que les Républicains, ils continuent d'être dans leur matrice vraiment à l'ancienne, voilà, sur le projet fiscalité, le truc, le machin. Voilà, des sujets assez techniques et c'est des sujets que les Français écoutent, entendent à chaque campagne présidentielle. Et voilà. Et du coup.
En même temps, il ne veut pas parler du pouvoir d'achat. François Pupponi dit, mais c'est pas du niveau d'un président de la République.
Il entend ce qui pose problème aux gens et il leur dit, vous avez raison, moi je vais vous régler le problème. Bon, c'est du populisme, mais ça marche. Parce que c'est le seul à en parler. Les autres vont expliquer, mais non, pas du tout, il ne faut pas faire ça parce qu'on a décidé que c'était mieux.
Macron fait pareil.
Mais bien entendu. Donc ils sont à l'écoute de l'opinion. Et quand il y a un sujet dont tout le monde parle, parce que sincèrement, le permis à points, qui n'a pas eu des points retirés ou des amendes et ou des gueules.
Mais c'était absolument pas un sujet dans le débat public. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce n'était pas un sujet dans le débat public.
Lui, il y va. Et pof, ça fait.
On ne parle de ça que
depuis Karl Pieder. Il y en a qui sont pour et contre, mais ça marche.
Et dans les cafés, les gens, je suis sûr, partout en France parlent. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Il faudrait supprimer le permis à points ? Oui, non. C'est des sujets qui intéressent.
Mais il crante l'opinion avec les thèmes qu'il impose dans le débat.
Ça confirme quelque chose ou une idée répandue qui était totalement. totalement fausse depuis quelques mois, qui disait « Mais de toute façon, il ne faut pas du tout se préoccuper d'Éric Zemmour, ne vous inquiétez pas, il intéresse deux personnes, les SP++, les CSP++, les grands diplômés et les personnes âgées. » Or, le dernier sondage Ipsos le prouve quand on le regarde dans le détail, il a un socle électoral très équilibré, aussi bien les jeunes que les vieux, et aussi bien les ouvriers, en quelque sorte, que les personnes âgées, comme on dit dans le langage courant et poli. Et en effet, les CSP moins et les CSP++, donc la catégorie populaire et les plus diplômés. Et ça, c'est très intéressant parce que littéralement, les gens qui ont besoin de leur bagnole tout le temps, qui se sont fait taxer la taxe carbone, qui ont eu les 80 km/h ou les quelques motards dont on a appris au début de l'année qui pensaient se vouloir se faire taxer avec le fameux stationnement payant et même le fameux contrôle, le fameux contrôle et la révision technique qu'il fallait.
Contrôle technique.
Voilà, le contrôle technique qu'il fallait avoir dans des proportions aberrantes. Donc tout ça, ça attise de plus en plus la thèse que Éric Zemmour va tout doucement aller chercher, un, dans les catégories populaires qui pouvaient voter à gauche ou Marine Le Pen, mais surtout chez les abstentionnistes. Et ça, si on ne veut pas le voir, eh ben, on n'arrivera jamais à contrer le phénomène Éric Zemmour.
Louis Dragnel.
Non, je vous rejoins assez. Mais ce que je trouve intéressant, et j'ai envie de voir comment Emmanuel Macron va essayer de s'y prendre face à Éric Zemmour. On voit que, en fait, avant, il avait un adversaire qui était assez identifié, c'était Marine Le Pen. Et là, maintenant, il a plus cette capacité à désigner, à choisir. Il ne connaît plus son adversaire. Et donc, il a une multitude d'adversaires, et particulièrement Éric Zemmour. C'est le seul qui l'arrive. Voilà. Il sait que face à la droite, il peut cogner comme un sourd sur des textes qu'il a fait voter, que la droite n'a pas voté, pourtant, qu'elle pourrait soutenir. La gauche, c'est pareil. Éric Zemmour, c'est totalement différent. C'est du judo, en fait, avec Éric Zemmour.
Pour l'instant, il l'attaque assez peu.
Mais il l'attaque très peu. Et quand il l'attaque de manière indirecte, sans le nommer, mais ça ne touche absolument pas, ça n'affecte pas Éric Zemmour. Et donc, moi, j'ai hâte de voir ce moment-là de vie politique où il va essayer de le cogner. On ne sait pas très bien comment il va s'y prendre parce qu'on voit toutes les tentatives ont totalement échoué. Christophe Castaner est monté au créneau, honnêtement, ça fait flop.
Marlène Schiappa, ça fait arrêter immédiatement d'ailleurs.
Ça fait un vide absolu.
Jean-Michel Blanquer.
Voilà, et on voit que voilà, ce matin, par exemple, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était sur Europe 1, il n'avait pas du tout envie de parler d'Éric Zemmour. On voit bien qu'ils ont du mal. On va voir comment ils trouvent une stratégie face à lui.
C'est quoi l'angle d'attaque?
L'angle d'attaque, il faut arriver à démontrer qu'Éric Zemmour n'a pas de solution. Effectivement, il dénonce des solutions, il dénonce des problèmes réels, mais il n'a pas de solution. Quand on lui dit, ok, d'accord, allez, vous ne permettez pas, vous ne voulez pas. Donc c'est reparti, on retourne avec des milliers de morts sur la route. Comment vous faites pour limiter l'accidentologie, les accidents sur les routes? Allez-y, comment vous... Et quand sur l'immigration, vous faites quoi? Vous mettez qui dehors? Vous renvoyez qui? Et là, excusez-moi, il est sec. Sur le pouvoir d'achat, vous faites quoi? En économie, voilà. Donc il faut lui poser des questions sur ce qu'il veut faire. Se dénoncer, oui, bien sûr qu'il est bon pour dénoncer. Mais après, on règle comment les problèmes?
Vous défendez un président qui n'a pas eu de programme jusqu'à deux mois avant son élection. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut interroger les potentiels candidats sur ce qu'ils veulent vraiment faire, Emmanuel Macron, on n'a pas su ce qu'il voulait faire pendant des mois, ça posait de problème.
Mais cela dit, il y a un bilan, il n'y a pas
par rapport à Zemmour, il y a un bilan. Ces solutions, il en a, ou il n'en a pas, ou ce qu'il propose, c'est inapplicable.
Là où je suis en désaccord, je ne sais pas s'il faut réellement démontrer que tout ce que fait Zemmour est en quelque sorte improbable ou faisable. Je pense qu'il faut opposer une autre vision de la France, qui n'est pas la même chose, parce que je ne pense pas qu'on fasse un programme contre quelqu'un, ce n'est pas pertinent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réussir à avoir une proposition et une vision cohérente de l'anti-France d'Éric Zemmour. Et je ne suis pas sûr qu'avec la capacité du « en même temps » qu'on a aperçu, Emmanuel Macron puisse la solidifier.
C'est quoi si on rentre là-dedans, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on le met au même niveau que le président de la République. C'est projet contre projet. C'est deux idées de la France. Mais ce qui intéresse les Français aussi.
C'est ça qui est intéressant dans la présidentielle.
Mais ce qui intéresse les pré-Français aussi, c'est de savoir si celui qu'ils vont élire va être capable de mettre en œuvre des solutions efficaces.
Mais qu'est-ce que propose un président? La vision d'une France.
La vision d'une France et des solutions réalistes. Quand il y a trop d'immigration, on rejette qui? Quand il dit qu'il faut les renvoyer chez eux, qui? De qui il parle? Parce qu'à un moment,
mais
c'est
Emmanuel Macron dit la même chose. Moi, c'est ça qui m'amuse. C'est qu'Emmanuel Macron dit la même chose. Il dit pas.
Les étrangers en situation régulière. Oui, et moi, pour avoir parlé avec Éric Zemmour, il parle d'autres choses. Il parle aussi, y compris de Français qui ont acquis la nationalité française et qui disent qu'il faut les renvoyer chez eux. Donc c'est aussi là-dedans qu'il faut pousser dans ces retranchements.
Une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera cette fois de Marine Le Pen, qu'elle est partie du côté de chez Viktor Orban. Comptent-ils tous à aller faire ce pèlerinage en Hongrie? On en parle dans un instant dans Punchline. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec François Pupponi, député apparenté Modem du Val-d'Oise, Maxime Liédoux, journaliste et essayiste, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va s'intéresser au voyage de Marine Le Pen. Elle était aujourd'hui en Hongrie auprès de Viktor Orban, qui l'a reçu avec faste, tapis rouge, et vraiment une réception digne d'un chef d'État. On va écouter Marine Le Pen féliciter Viktor Orban de lutter contre la submersion migratoire de l'Europe.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
François Pupponi, pourquoi vont-ils tous, Éric Zemmour y était il y a quelques semaines, voir Orban, qui est le leader souverainiste de l'Europe?
Il y a deux raisons. La première, c'est effectivement d'aller voir un souverainiste qui dirige un pays dans l'Europe, donc qu'on peut, en étant dans l'Europe, s'opposer quand même à la politique de l'Union européenne, en étant à l'intérieur. Et puis deuxièmement, je pense que pour Marine Le Pen, elle a un petit problème de financement quand même.
Donc, mais elle va chercher des financements en Hongrie ?
Elle va trouver des banques en Hongrie qui vont être capables
de... Ah, mais elle n'a plus le droit, on ne peut plus.
Ils peuvent trouver des financements, mais elle a un petit problème de financement.
D'accord. Voilà. Maxime,
D'après les informations que j'ai eues aussi, c'est qu'elle a aussi quelques intérêts de ce côté-là, parce qu'il faut qu'elle finance sa campagne. Rappelez-vous les difficultés qu'elle avait eues la première fois. mais là, voilà. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là.
Maxime Liédoux, Orban, ce n'est pas anecdotique non plus, ce n'est pas banal.
Enfin, c'est tout sauf banal, mais ça s'inscrit dans une actualité européenne qu'on voit depuis deux semaines. Il y a la Pologne d'un côté, la Hongrie de l'autre. On peut voir ça sur le prisme d'avoir une stature internationale pour Marine Le Pen. Mais à mon sens, il y a deux choses. Il y a en effet Hongrie, Pologne, les différentes, on va dire, infractions qui sont faites à la démocratie récemment. La Pologne, on sait que c'est l'indépendance dans la justice, les problèmes des médias, les droits des LGBT, un peu pareil en Hongrie également. Mais il y a l'autre aspect qui est l'aspect, on va dire, européen, à savoir que est-ce qu'on peut être dans l'Europe en critiquant la primauté du droit européen sur les lois fondamentales, puisque c'est en effet le bras de fer qui est en train de se faire entre d'un côté la Pologne, d'un côté l'Union européenne. Et je trouve ça très intéressant.
Et ça sera un fil rouge de la présidentielle, à mon avis.
Si c'est le cas, je l'espère, parce que en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on voit. Je pense à une interview de Clément Beaune dans Libération lundi dernier qui expliquait. Très pointu. À la page 2, exactement, en bas.
Très pointu,
non, mais qui expliquait que poser ces questions, c'était mettre le doigt dans un engrenage qui allait faire monter les extrêmes. Donc encore faut-il que ce débat soit possible en France, je l'espère en tout cas.
Louis Dragnel.
Ce débat, en fait, a déjà commencé en France, puisque à la suite de la décision polonaise, ce débat, notamment, s'est invité dans la campagne des Républicains. Ouais. Et on voit bien Michel Barnier, qui est quand même pas le premier souverainiste français parmi tous les autres candidats, même s'il s'y est progressivement converti, tous les autres candidats, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, parlent même de la primauté du droit français sur le droit européen.
A-t-il réellement été posé? J'ai l'impression que c'est hystérisé, parce qu'en effet, tout le monde a mis sa petite, mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement posé. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu réellement un débat de fond avec des propositions, je n'ai pas entendu de gens qu'on dit écoutez, ça fait quelque temps qu'on a délégué l'agriculture, l'industrie à l'Union européenne, et par exemple, personne à droite, de tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, n'a rappelé qu'accessoirement, en 2005, on avait voté contre la Constitution européenne et qu'accessoirement, en 2007, hop, passé comme une lettre à la poste au Parlement.
En fait, donc,
ça paraît des sujets.
Alors, il y a une bascule, en fait, qui s'est quand même produite. C'est-à-dire que là, vous avez raison, c'est qu'avant, on abordait cette question sur des sujets très précis, la politique agricole commune, on parlait de la Cour de justice de l'Union européenne, récemment, les questions migratoires. Et là, en fait, vous avez le débat carrément qui est-ce que notre droit français, tout en bloc, doit passer au-dessus du droit européen, ou alors dans l'autre sens, est-ce qu'il doit s'affranchir du droit européen?
Alors, ce n'est pas tout en bloc, c'est certaines mesures, dispositions.
Bah là, c'est la justice, globalement, c'est... Et après, ça fait jurisprudence, donc de fait, c'est quand même... l'idée générale, c'est celle-là. Mais pour revenir au déplacement de Marine Le Pen, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, donc, elle a vu le Premier ministre polonais la semaine dernière.
C'est ça, vendredi dernier.
Et absolument, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, du coup, voit le président polonais demain, ça va être un sujet très important. Et donc,
il réfléchit à aller voir.
Voilà. Et donc Emmanuel Macron, il regarde quand même de très près ce qui est en train de se passer avec Viktor Orban et les Polonais, et donc Marine Le Pen, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va présider l'Union européenne, donc il marche sur des œufs, parce qu'il se dit, si je les exclue trop vite, on va me traiter de diviseur, c'est pas moi qui vais fracturer l'Union européenne, et si je suis trop bienveillant avec eux, on va me dire, tu laisses se fracturer l'Europe de l'intérieur, justement, avec le rétablissement de ses souverainetés. Donc Marine Le Pen, c'est là où c'est assez malin, pour elle, le timing est assez bon. Certes, elle arrive un mois après Éric Zemmour. Mais donc, elle arrive, elle se pose, vous l'avez dit, elle a été reçue avec un rang de chef d'État.
Quasiment.
Et quasiment.
Deux drapeaux français derrière elle, deux drapeaux hongrois et pas de drapeau européen.
C'était assez intéressant. Et donc voilà, donc tout l'enjeu pour elle, c'est de se démarquer d'Éric Zemmour, ça on l'a dit. Donc elle a été reçue en tant que politique, là où Éric Zemmour, c'était vraiment plus les codes d'un intellectuel. Il allait à un sommet sur la démographie. Elle a eu le droit à une conférence de presse commune. C'est pas du tout le même statut. Et puis voilà, elle est en train aussi d'essayer de s'ancrer, de récupérer un électorat français qui peut être sensible à ce qui est les racines chrétiennes de l'Europe, toutes les questions migratoires, des sujets qu'elle avait un tout petit peu écartés.
Et que Zemmour lui a piqué.
Et d'ailleurs, c'est assez amusant, figurez-vous que c'est une petite anecdote, mais hier, elle est allée à la basilique Saint-Étienne de Budapest et elle a allumé un cierge pour la France. Voilà, je trouvais que le symbole était à la fois amusant et assez fort.
François Pupponi.
Non, c'est vrai qu'elle a du retard. Hein. Elle voit bien. Là, le dernier sondage qui est sorti, elle est d'un point derrière Éric Zemmour. Il n'a pas lancé sa candidature. Et elle sait très bien que le risque pour elle, c'est que le jour où elle lance la candidature, un certain nombre de cadres du Rassemblement national rejoignent Éric Zemmour et que les courbes s'inversent complètement. Bon, là, on est à touche-touche.
Oui, donc, ça stagne. Là,
ça stagne. Mais elle est obligée d'aller chercher une caution aussi internationale, de montrer qu'elle est capable aussi d'avoir cette posture internationale. C'est ce qu'elle fait. Mais elle le fait toujours avec un temps de retard. Bon. Donc elle est derrière Éric Zemmour, elle court derrière. Là, Orban lui a déroulé le tapis rouge hein, pour bien montrer que c'était quand même sa candidate. Mais il n'empêche qu'elle court après.
Maxime, je trouve aussi que ce qui est très intéressant, c'est le positionnement d'Emmanuel Macron au milieu des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, c'était fin de la semaine dernière, je crois, jeudi soir ou vendredi soir, il parlait depuis la Commission européenne, il disait, pour justifier le chèque inflation, bon, par exemple, la TVA, vous voyez, on ne peut pas tellement la baisser parce que l'Europe nous l'interdit. Bon, ben, pas de chance, parce que Ursula von der Leyen avait conseillé l'inverse quelques jours auparavant. Et puis, on le voit là aussi, il dit, mais vous ne comprenez pas, tout ce qu'on reproche à l'Union européenne, on l'a voulu et finalement, la faute, c'est à l'Europe, mais l'Europe, c'est nous. Mais c'est pas totalement vrai, parce que quand on se plonge dans les textes, même si ça fait l'objet de débats de spécialistes de droit, la primauté du droit européen sur les règles fondamentales, ce n'est pas si clair que ça, parce qu'on peut dire qu'il y a dans notre constitution, dans la jurisprudence, la primauté du droit international, mais je veux dire, ce n'est pas dans le fondement de l'Europe, la primauté. On a eu une première décision en 64 qui disait que certaines lois européennes pouvaient être supérieures à quelques lois. En 70, un autre truc, mais là où la seule fois où ça a été clairement exprimé, c'est en 2005, et la France a voté contre. Donc ça aussi, ça, j'espère...
Mais le droit européen s'impose à nous.
Oui.
Au niveau fiscalité, au niveau des aides qu'on peut apporter à l'entreprise, on ne peut pas.
Ce qui est un problème.
Non, ce qui est un vrai problème, mais sauf qu'on a accepté de constituer un espace européen où il y a.
Ce que dit Macron, l'Europe, c'est nous, qui l'avons créé.
Elle n'est pas si évidente que ce soit.
Elle est de plus en plus. Et donc on l'a accepté. Alors maintenant, on peut dire que l'Europe ne devrait pas être ça.
C'est beaucoup plus nuancé, à mon sens, et Louis va me corriger sans attendre, mais c'est beaucoup plus nuancé que de dire voyez, la primauté, on l'a toujours voulu, l'Europe, c'est comme ça, et le peuple a voté pour.
C'est comme ça qu'elle s'est construite, en tout cas.
Oui, c'est comme ça.
Peut-être pour vous réconcilier sur cette question-là. Non, moi, il y a quelque chose que j'ai observé il y a quelques années qui m'a fortement frappé. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des transpositions de directives européennes donc qui sont votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, moi, j'ai été frappé parce que les parlementaires français votent de manière extrêmement zélée toutes les directives de l'Union européenne. Et parfois même en rajoutant comme s'ils voulaient montrer à l'Union européenne, à Bruxelles, qu'ils étaient des très bons élèves.
Et souvent, ça se rajoute par des normes qui nous...
Et du coup, en fait, c'est assez... C'est quelque chose qui m'a un peu étonné, qui m'amusait à l'époque, juste en regardant ce qui se passait. C'est que les mêmes qui, sur les plateaux de télévision, vous expliquaient que c'était horrible, qu'ils étaient soumis à l'Europe et tout ça, étaient les mêmes qui, peut-être un peu pour se vanter d'avoir des compétences technique, aller beaucoup plus loin que ce que demandait l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et juste pour terminer, moi, ce que je trouve très intéressant dans le débat qui est en train de s'installer, pas du tout entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, ça dépasse largement le cadre d'Éric Zemmour et Emmanuel Macron. C'est le débat qui est en train de se produire en Europe. C'est est-ce qu'on va vers cette volonté d'aller vers l'Europe politique qui est une utopie, ou est-ce qu'on revient en fait à l'Europe du charbon et de l'acier? Alors, ce sera peut-être pas le charbon et l'acier, mais ce sera une entente économique.
Mutualisation des nations.
Moi, je trouve que c'est un débat qui est pas.
François Pupponi, un tout dernier mot.
C'est vrai que c'est un vrai débat qui va être posé et qui va être posé par Éric Zemmour et par Marine Le Pen. Et là, il faudra que les autres répondent.
Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce Punchline sur Europe 1. On se retrouve demain à 18h pour Punchline 18h-20h. Et tout de suite, sur Europe 1, c'est Mouloud Achour pour son émission. Maxime Yedo. Ah,
je n'ai pas votre talent pour prononcer le nom.
Verveine Underground. Bonne soirée à vous sur notre antenne.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.